Paris de la Résistance. Bonsoir, mesdames et messieurs, les collabos. Profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les impôts. Messieurs de la police de la pensée, bonsoir, monsieur l'inspecteur Mendès. Bonsoir, monsieur l'inspecteur Prasant. Bonsoir.
Vous êtes bien poli ce soir, hein? C'est très bien.
Ben oui, mais continuez. C'est normal. C'est normal, il faut être poli. Il faut... Et je vais continuer à être poli. Je vais présenter des excuses aux auditeurs que j'ai lâchement abandonnés pendant 15 jours parce que je suis allé aux universités.
Ah, faut bien quand même s'instruire un peu là.
C'était pas vrai. Alors, c'était très bien.
C'est l'occasion de s'amuser un petit peu quand même.
C'était très bien. Je le dis comme je le pense. L'université de Centre Charlie, j'en ai déjà parlé. C'était magnifique. L'université de Renaissance catholique, c'était, alors là, exceptionnel.
Je pensais que vous alliez les amener ce soir.
Ben oui, moi aussi, mais non.
Ils vous ont lâchement abandonné à leur tour.
Passionnant. Notamment une conférence, c'est tout passionnant, mais il y a eu une conférence de Pierre Darnac sur Fatima. Un modèle du genre. C'est tellement bon que je vais la publier dans le Libre Journal. Prochainement, le Libre Journal de la France courtoise. Journal imprimé sur du papier.
Avec le Libre Journal de Radio Courtoisie,
oui,
de Serge Lebecatch à Radio Courtoisie,
qui n'est pas imprimé, ce journal. J'en profite pour dire que quand vous vous abonnez, quand vous adhérez à Radio Courtoisie, il ne faut pas m'écrire après en disant j'ai adhéré à Radio Courtoisie, je ne reçois pas le Libre Journal, parce que c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Vous adhérez à Radio Courtoisie. Et vous pouvez, si vous voulez ou pas, c'est comme vous voulez, it's up to you, comme disent les Anglais, vous abonner au Libre Journal, mais c'est autre chose. Ou alors, vous pouvez ne pas le faire. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous me troublez beaucoup, là. Je suis en train de se battre pour savoir s'il faut fermer la porte ou pas. Il y a Praline qui fait son entrée. Est-ce qu'on vous a déjà dit qui était Praline?
On a déjà parlé
de Praline.
Quand vous entendez une petite clochette,
voilà.
Ce n'est pas Serge qui l'a autour du cou. Non, non, c'est la petite chatte. Elle a entrepris le jour de Bernard Lugan. Vous connaissez Bernard Lugan et son horreur du bruit. Elle a entrepris d'aller boire dans son verre. Et comme le verre était un peu grand, elle n'a pas réussi. Elle a failli éternuer et elle s'est cognée dans la lampe. Alors là, à moitié assommée, elle est allée se coucher sur sa cravate.
Vous ne pouvez pas imaginer le ravissement de cette petite chatte.
C'est une chatte de dessin animé.
2 mois.
Elle est toute mignonne.
Elle est ravissante, voilà. Bon, ça, c'est pour les auditeurs qui n'aiment pas les chats. Je suppose qu'il y en a.
On n'a pas, pratiquement.
Donc, je disais, le Libre Journal, pour vous abonner, c'est 600 francs, envoyez 4 places France Lit. Et c'est urgent parce que après l'été, en général, on est exsangue. Pendant l'été, il n'y a pas d'abonnés, comme il n'y a pas de journaux. Donc, je vous demande, si vous avez l'intention de vous abonner, de ne pas perdre de temps. Ça nous rendrait bien service. Bon, et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Alors, non, j'ai encore quelque chose à dire, c'est que pour les messages, vous pouvez naturellement passer par le 46-51-00-85, par le fax 46-51-21-82, et puis par le 36-15 Libre Journal, sur lequel vous pouvez laisser des messages. Et peut-être que dans le cours de l'émission, je pourrais vous donner une bonne nouvelle concernant le 36-15 Libre Journal, 2,23 francs la minute, c'est-à-dire moins cher qu'un timbre, et pas beaucoup plus cher qu'une communication téléphonique longue. Voilà. Au cas où vous auriez oublié quelques bases essentielles du débat politique pendant les vacances, je m'adresse naturellement aux auditeurs qui ont pris des vacances. Je sais bien que c'est à la mode de n'en point prendre, mais je parle de ceux qui prennent des vacances et qui auraient donc vidé leur tête à l'occasion de ces vacances-là, ce qui a été mon cas, et vous pouvez vous en apercevoir d'ailleurs. Je voudrais donc vous rappeler quelques vérités élémentaires, ou vous faire rappeler quelques vérités élémentaires, en tout cas une vérité élémentaire, sans laquelle votre année risque d'être un petit peu difficile. Donc je laisse la parole maintenant à quelqu'un qui va vous rappeler une des bases du débat politique d'aujourd'hui.
On est en République, répertoire vendu. On peut payer, on est en République. Tout ça, c'est bien, tout le monde est content. Le président, avec sa police, ne gagne plus tout en mille francs par an. On tire au bas les retraites ouvrières. Partout ça c'est un vrai bonheur. La nation française peut être vraiment chère, vu les trois couleurs. On va tailler, on les a résumés. On marche bien, tout le monde est content. Le directeur, l'assistant public, ne touche plus que 45 000 francs. Aussi l'on donne maintenant son primaire, afin qu'elle soit à l'abri du malheur. 3 francs par mois, c'est humanitaire, vive les trois couleurs. On n'est pas républé, tout marche bien, tout le monde est content. Les députés, ça c'est magnifique, ne gagnent plus que 4000 francs par an. Aussi on peut augmenter les salaires, les cantonniers et les pauvres facteurs. 50 sous par jour, je crois que ça peut leur plaire, ils les trois couleurs. On peut tailler, on est grand réfumé. Tout marche bien, tout le monde est content. Monsieur Desblair, avec sa mécanique, nous coûte à peine 60 000 francs par an. Ah, s'il fallait, il coupe toutes les terres de tous les gens qui durent les avant-cœurs. De Madame Sénel, Audrey Valunaigre, de toutes les couleurs. On va essayer, on est fort résumé. Tout marche bien, tout le monde est content. L'eau piratée, ça c'est magnifique. Ne coûte pas plus de 30 millions par an. Ils sont d'une force extraordinaire. Même en temps de paix, ils aiment la terreur. Les canons éclatent, ainsi que les sauvières. Vive les trois couleurs.
Voilà, donc on est en République, c'est pas moi qui le dis, c'est mon excellent camarade Montéus, et ça date pas d'aujourd'hui, puisque vous le savez, Montéus était un chanteur populaire du début du siècle, c'est une espèce de Bruel de la Belle Époque.
Oh non,
non,
oh
non. Enfin, pas Bruel. Bon. Ben, qui alors?
Je ne sais pas, mais pas celui-là.
Pas. Bon, pas celui-là, d'accord. Voilà. On n'a pas lieu de s'en réjouir d'ailleurs, mais enfin
Serge
c'est comme
Lama,
ça.
Tiens.
Serge Lama, espèce de Serge Lama. Alors, comme on est en République, on va donner la parole aux citoyens. C'est-à-dire que je me suis dit que depuis quelques temps, on avait tendance à de moins en moins lire les messages des auditeurs, en ce qui me concerne.
Alors c'est vous qui m'empêchez de les lire et c'est moi qui ai des reproches.
Voilà. Cette émission, on va la faire d'une façon un peu particulière. On va lire tous les messages des auditeurs, donc profitez-en si vous avez envie de dire des messages insultants, dans la mesure où ils sont courtois. Je veux dire, on peut être insultant d'une manière courtoise, hein, pas grossier, je veux dire. Et puis, on parlera de l'actualité qui vous intéresse. On va faire un essai. On verra ce dont les auditeurs de Radio Courtoisie du mercredi soir ont envie de parler. Et puis on en parlera, on fera un petit point de l'actualité à travers les goûts, ou les centres d'intérêt et les points de vue de nos auditeurs. Ça sera dans la première partie. La deuxième partie, comme le camarade Amiche a déclaré forfait pour cause de fatigue et de santé, puis parce qu'il a fait deux émissions entières là et que...
Vous lui aviez dit que vous la feriez, celle du mois de septembre.
Vous êtes un peu balance, vous.
Non. Je soutiens quand même les malheureux.
Un petit peu balance. Alors, donc, la deuxième partie, je recevrai Arnaud Guillaume-Jamin. Il est d'ailleurs déjà dans le studio et j'espère qu'il interviendra au cours de la première partie. Mais je le recevrai pour parler d'un personnage assez mystérieux auquel il vient de consacrer un dossier H. Alors, les dossiers H, c'est une production des éditions de l'Âge d'Homme. C'est quelque chose de très, très... Ça fait un peu penser aux Cahiers de Lerne.
Oui, c'est un petit peu la suite des Cahiers de Lerne.
C'est la suite des Cahiers de Lerne.
Les Cahiers de Lerne paraissent toujours, d'ailleurs.
Et c'est donc un dossier H consacré à Julius Evola, qui a l'air d'intéresser énormément Praline. Et on parlera également, mais plus rapidement, de deux autres dossiers des parures de sillage, Alexandre Vialat et puis Dominique Deroux, dont on a déjà longuement parlé dans cette émission. Et quand je dis longuement, c'est pas du tout un reproche, parce que c'était une émission, si je me souviens bien, de Philippe de Saint-Robert.
C'est ça, oui, exactement.
Et
oui.
Qui était tout à fait passionnante, qui était oui. drôle comme tout. On découvrait l'extraordinaire personnalité de Roux. Alors, commençons par l'actualité. On va commencer par l'actualité la plus intéressante. Je lis dans Présent, car je lis Présent tous les jours, comme vous tous, que M. Léotard a fait une déclaration récemment devant quelques journalistes de l'AFP. Il a déclaré interdire que l'opposition intègre Philippe de Villiers. Je ne sais pas si vous me suivez bien, parce que quand on rentre de vacances ou quand on rentre des plages ensoleillées ou des bords de rivière ou de la campagne ou de la montagne et qu'on tombe comme ça sur du Léotard dans le texte, dès le départ, c'est un peu brutal comme reprise de contact. Hein. Ça, il faut s'attendre à ça. Mais c'est la dure loi du métier de journaliste. L'ouvrier de chez Citroën qui rentre à la chaîne, c'est pas gay, mais le journaliste qui rentre et qui trouve une déclaration de Léotard, il est un tout petit peu plus mal à l'aise que le vidangeur, par exemple, qui est obligé de reprendre ses seaux en début de saison. Alors donc, Léotard a répondu à Charette, parce qu'ils sont pour l'union de tout, mais ils s'engueulent bien entre eux. Charette avait dit qu'il était urgent de réintégrer Villiers dans l'opposition, et Léotard lui dit non, il faut pas que Villiers réintègre l'opposition. Donc il faut supposer, nous dit Henri Hervé dans Présent, il faut supposer que le seul endroit où Villiers pourrait aller, c'est la majorité. La majorité socialo, communo, trotsko,
écolo,
radicaliste. Alors c'est quand même, je ne sais pas s'il y serait bien, je ne crois pas. Ce que je me demande, c'est si Léotard n'est pas quand même un petit peu malade dans sa tête.
C'est hein? possible.
C'est pas exclu totalement
non.
que ce garçon ait besoin de... petit traitement rapide, hein, c'est pas justiciable de la camisole de force. Mais enfin, là, on sent quand même que il a des côtés, il est très fatigué. Et d'ailleurs, si on en doutait, on le trouverait dans un aveu qui est formidable. C'est un fin politique en même temps, Léo. Faut pas le prendre pour la moitié de ce qu'il est. Hein. Il dit, le Front National est devenu, qu'on le veuille ou non, le premier parti ouvrier de notre pays. Et deuxièmement, il dit la victoire de M. Le Pen n'est plus exclue, ne peut plus être exclue. C'est Léotard qui le dit. Donc, je pense que, comme je ne crois pas que Léotard ait envie de faire de la pub au Front National, je crois que Léotard se dit, si on dit que Le Pen va gagner, ça va pousser les gens à voter contre lui et à le faire perdre.
Hein ? Ah, il s'est oublié qu'on vole au secours de la victoire, quelquefois.
Ben, c'est ça. Et puis l'autre problème, c'est que si... on espère faire perdre quelqu'un en disant qu'il va gagner, on est obligé pour gagner de dire qu'on va perdre. Donc normalement, Léotard devrait dire, nous allons perdre les élections.
Jean Popren avait déjà dit il y a quelques années exactement la même chose que M. Léotard, et puis les effets ont été pas suivis de résultats, ça a été complètement nul.
Mais Popren d'ailleurs, oui, ce que ça lui a rapporté, je ne souhaite pas que ça arrive à Léotard, mais enfin si ça lui arrivait, j'en ferais pas une maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'il risque pas de mourir d'un traumatisme crânien, enfin cervical, ça, ou cérébral. Ça, c'est sûr. Alors, il y a aussi de bonnes nouvelles dans la presse. Je lis dans Le Monde la chose suivante. Il y a deux candidats s'affrontent au Grand Orient. Alors, je pense que c'est la bonne nouvelle, parce qu'entre nous, ce qui se passe au Grand Orient, je m'en tamponne joyeusement. Mais quand même, il y a une chose qui est rigolote. Écoutez bien ce que je vais vous lire. C'est en page, c'est dans Le Monde, en page, voilà. J'ai pas le numéro de la page parce que j'ai enlevé la coupure. Et c'est celui de ce soir. Praline, doucement la cloche. Alors, Monsieur Fillette peut faire. Monsieur Fillette, c'est un des candidats, à la présidence du Grand Orient de France, enfin de France, du Grand Orient, quoi, tout simplement. Monsieur Fillette peut faire valoir une action persévérante pour appliquer les décisions du convent. En matière de rigueur, il s'est attaché à recruter un personnel sur des critères professionnels et non pour leur appartenance maçonnique. C'est très intéressant, ça, vous entendez bien. Hein ? Le personnel du Grand Orient de France est recruté désormais en fonction de ses capacités et pas en fonction de son appartenance maçonnique. Ce qui veut dire deux choses. c'est qu'au Grand Orient, il y a normalement donc des gens qui ne sont pas francs-maçons, des secrétaires, des employés de bureau, des choses comme ça. Et deuxièmement, qu'on peut très bien être franc-maçon et totalement incompétent sur le plan professionnel. Moi, ça fait longtemps que je m'en étais aperçu, mais je trouve que le fait que ça soit écrit dans Le Monde, c'est quand même pas négligeable. Et il ajoute, en raison de fuite au profit de l'extrême droite, qui a révélé par deux fois sur Radio Courtoisie le mot de passe de l'obédience, il a obligé tous les frères, même les plus connus, à présenter leurs cartes à l'entrée des temples. Alors, là, je n'ai pas l'habitude, ma chère Victoria, de me jeter des fleurs, mais je dois dire que l'extrême droite en question étant personne d'autre, nul autre que votre serviteur, qui effectivement par deux fois a donné le mot de passe. Vous n'avez pas remarqué que j'avais donné deux fois le mot de passe dans les loges maçonniques ?
Je ne suis pas très attentive.
Ah, pardon, c'est pas bien, ça. Alors deux fois, et je savais que ça avait provoqué une certaine émotion, mais je ne pensais pas que ça avait suscité une réaction de M. Fillette, aussi vigoureuse que celle-là, consistant à demander, y compris aux frères les plus connus, leur carte à l'entrée du temple. Ce qui veut dire que quand un ministre franc-mac arrive maintenant au Grand Orient et qui se pointe tout imbu de lui-même, tout ventripotent et tout bardé de ses décors, de ses tabliers, de ses écharpes, de ses gants blancs, et qui dit en entrant « Voltaire Vigilance », on lui dit « Mon pote, tu rentres pas avec Voltaire Vigilance, fais voir ta carte de franc-mac !» Ce qui fait que maintenant, les francs-macs comme les prostituées doivent avoir leur carte. Je sais même pas, est-ce que les prostituées ont encore des cartes? Vous savez pas ça, hein?
Non, je ne sais pas.
Faudrait que je vérifie. Auprès de la police, bien entendu.
Bien sûr.
Donc voilà, vous voyez que tout le travail qu'on peut faire dans cette émission n'est pas totalement inutile, même si ça nous vaut l'imputation d'appartenir à l'extrême droite, ce qui est extrêmement, si j'ose dire, exagéré. Je ne suis pas d'extrême droite du tout. Enfin, pas complètement. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, moi, je ne serai pas embauché au laboratoire Fournier, car nous apprenons aujourd'hui que l'ancien ministre et ancien député RPR de Nantes, Elisabeth Hubert, est devenu directeur général France de Fournier et de Débat. Ça a été annoncé mardi 2 septembre par le troisième laboratoire indépendant français, donc le laboratoire Fournier, spécialisé en cardiologie, et dont la filiale Débat est spécialisée en urologie. Et le troisième laboratoire indépendant français, le laboratoire Fournier Débat, nous explique que le docteur Hubert apportera au groupe Fournier sa connaissance et sa solide expérience de prescripteur des autorités de tutelle. Est-ce que vous suivez bien ce que je suis en train de vous dire ?
Je m'applique.
Bon. Parce que vous avez l'air ennuyé. Mais moi, je trouve quand même
Je m'applique.
Ouais. Je trouve quand même extraordinairement intéressant qu'un quotidien officiel, le journal officiel du pouvoir socialiste en quelque sorte, nous apprenne qu'un ancien ministre de la Santé, car Madame Elisabeth Hubert était ministre de la Santé, que l'ancien ministre de la Santé est embauché par un grand laboratoire comme directeur, en fonction de sa connaissance des prescripteurs, des autorités de tutelle, de l'économie de santé et de l'environnement pharmaceutique et médical. Hein ? Vous ne trouvez pas ça assez incroyable quand même ? Est-ce que si on traduit en français courant, on ne pourrait pas utiliser des mots désagréables si on disait une chose pareille ?
Oui, mais à ce moment-là, vous allez avoir des ennuis.
Voilà,
si vous employez encore des mots désagréables.
Ah, non, mais...
Soyez cool. Oh, pardon, soyez...
Moi, je suis absolument stupéfait de penser qu'un ancien ministre de la Santé met tout simplement son pouvoir d'entre-gens, sa puissance de lobbying, parce que là, on peut employer le mot, au service d'un laboratoire pharmaceutique et médical. Enfin, c'est absolument incroyable. On nous explique que Madame Hubert met son expérience des prescripteurs, autrement dit des gens qui recommandent des médicaments et des traitements, des autorités de tutelle, autrement dit de l'administration de la médecine en France, de l'économie de la santé et de l'environnement pharmaceutique, qu'elle met cette connaissance-là au service des intérêts privés, qu'elle met une connaissance acquise et un entre-gens acquis dans le cadre de ses activités politiques, qu'elle les met au service d'une société privée. Enfin, c'est invraisemblable. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Ça se faisait, bien entendu, mais on ne le proclamait pas sur tous les tons de la gamme. Et là, c'est dans Le Monde, sur deux colonnes. Et on explique d'ailleurs que si elle a fait ça, eh ben c'est tout simplement parce que, étant donné qu'elle s'est fait virer de partout en politique, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Renonçant à retrouver son siège de député après son départ du gouvernement, elle avait été repêchée en mars 96 par le chef de l'État, qui l'avait fait venir à l'Élysée comme chargée de mission. Et puis, etc. Après, elle s'était mise au service de Séguin. Et puis, comme visiblement personne ne veut d'elle, eh ben, elle est allée se mettre au service des intérêts privés de la pharmaceutique. C'est bien, non? Tiens, ben, on va écouter un peu de musique. Vous allez voir. Parce que je voudrais pas qu'on croie que je suis vraiment trop méchant avec les gens du gouvernement. Même passé.
Des honnêtes gens dans le gouvernement. Répertoire, montez-y. Vraiment, on a la peine en France. Il y a des années sans dans le gouvernement. Nous sommes bien tranquilles pour notre argent. Soyez donc pour les congrégations. Ceux qui ont fait la liquidation, ils n'ont volé que 10 petits millions. Il y a des années sans dans le gouvernement. Il y a des années sans dans le gouvernement, vraiment qu'on a la peine en France. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, aussi le travailleur est très content. Voyez donc les retraites qu'on vient de voter, 6 sous par jour, quelle fraternité, et 5 000 pour les anciens députés. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, à vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, ici tout se fait très loyalement. Voyez donc pour les élections, jamais de vol, jamais de corruption. Il n'y a que les urnes qui sont à double fond. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, à vraiment ce qu'on a de la veine en France. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, c'est un vrai bonheur pour les indigents. Voyez donc pour les inondations, ce que l'État a reçu de millions, mais on oublie faire la distribution. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. À vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Aussi les agents suivent le mouvement. Ils ont tellement l'idée de l'honneur. Ils ne veulent pas toucher un voleur. Mais le 1er mai assomme les traces. D'ailleurs, il y a des honnêtes gens dans le gouvernement.
Ce qui est amusant, c'est quand même de penser que ces chansons, il y a des honnêtes gens au gouvernement, ça a été écrit il y a pratiquement un siècle. Pas tout à fait un siècle, disons, enfin, un trois quarts de siècle.
Mais c'est plus du tout d'actualité.
Non,
plus
il
n'y
a plus du tout d'honnêtes gens au gouvernement
non,
maintenant. Donc, il y a une affaire qui sollicite beaucoup les médias en ce moment, c'est l'affaire de Vitrolles. Vous savez qu'à Vitrolles, Catherine Maigret, maire de Vitrolles, a dit que véritablement le commissaire de police locale n'était pas à la hauteur de sa tâche, que c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de villes de France où les policiers sont ligotés et muselés, on les empêche de faire leur travail. Et donc elle a osé dire tout haut, ce que tous les Français vivent tout bas. Il suffit d'être cambriolé, d'aller dans un commissariat, puis d'essayer de faire enregistrer sa plainte pour cambriolage, et vous verrez ce qu'il faut en penser. Madame Maigret a osé le dire, et naturellement, ça a suscité de vastes réactions de protestation. Ce qui est très amusant, d'ailleurs, c'est qu'on a vu la presse de gauche qui passe son temps à cracher sur les flics, voler au secours du commissaire de Vitrolles ou des policiers de Vitrolles. Donc tout ça prouve bien que, au fond, le Front National sert à quelque chose. Au moins, il aura servi à réconcilier la police et la presse de gauche. Mais je voudrais rendre un hommage tout particulier aux Parisiens libérés d'aujourd'hui qui titre son article sur cette question « Les gros bras de la mairie FN de Vitrolles » et dit « À Vitrolles, on joue peur sur la ville. Tous les soirs, polo, pantalon et bottes noires, 357 magnum à la ceinture. Les policiers municipaux de la brigade d'intervention rapide incarnent de façon musclée la politique sécuritaire de la mairie Front National. » Autrement dit, pour le journaliste du Parisien libéré, ça n'est pas... Le problème, c'est pas la délinquance. Le problème, ça n'est pas l'agitation dans les banlieues, dans les cités. Ça n'est pas la violence. C'est ce qui fait peur sur la ville. C'est la police. C'est la police municipale. Donc, au fond, là, on est encore dans une situation assez simple, classique d'ailleurs. Si je comprends bien, il suffit maintenant de supprimer la police à Vitrolles pour rétablir la sécurité dans cette ville. Et je pense que ça pourrait intéresser énormément les Vitrolais et en tout cas Catherine Maigret de savoir qu'elle tient une solution qui est à la fois efficace et économique. Hein. Ça représente quand même un gros budget, le budget de la police dans une municipalité. Et en supprimant la police, on peut faire de très très grosses économies. Je pense qu'il est temps de venir à cette solution. Je ne sais pas si ça durera très très longtemps, mais on peut l'espérer. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'avis de Madame, c'est Madame Guigou, je crois, qui a fait une déclaration récemment, après qu'il y ait eu toute une série de violences, d'assassinats commis par des jeunes. Elle a protesté, non pas contre ces assassinats, non pas contre ces violences, mais contre le fait qu'on disait que ces violences étaient imputées à des jeunes des banlieues. Alors à ce propos, j'ai remarqué une chose, il y a du nouveau maintenant, c'est qu'il y a deux catégories de délinquants. Il y a les jeunes sans identité. Alors on dit telle personne a été attaquée dans le métro ou dans l'autobus, ou un policier a été battu par des jeunes, et on n'a jamais l'identité. En revanche, il y a d'autres, une autre catégorie de jeunes, qu'on n'appelle pas des jeunes, mais dont on donne les prénoms. Alors, vous avez par exemple un vieux monsieur qui a été attaqué dans la rue, et son agresseur, Christophe, a été immédiatement arrêté, Christophe X, a été arrêté et transporté au commissariat. Ou vous avez des jeunes qui ont été pris en train de saccager un wagon de chemin de fer. Alors, on a Cyril, Emmanuel et Jean-Pierre qui ont été arrêtés par la police des chemins de fer. Donc il faut apprendre maintenant à lire les journaux, il faut bien faire attention. Vous avez les jeunes sans identité et les jeunes avec identité. Ça permet de placer un petit peu, enfin de prendre connaissance, d'avoir conscience de la réalité du problème. Et puis, ça permet aussi de constater que finalement, on s'aperçoit que les jeunes avec identité sont quand même nettement moins nombreux dans les faits divers que les jeunes sans identité. Et je me demande pourquoi. C'est peut-être tout simplement parce que la police n'a pas le temps de transmettre les identités de tous les jeunes. C'est possible. Puis il y a des prénoms qui sont un petit peu compliqués. Et alors, naturellement, dans la presse, ça donne ce genre de choses. Par exemple, un auditeur m'envoie ça. Dans la Haute-Marne, libérée, je crois, on lit dans le journal du 18 août 1997 l'information suivante. Rix à coup de fusil. À la suite d'une banale bagarre au camping de la Cornée du Der, une partie des protagonistes sont revenus armés et ont tiré en l'air. Alors, je vais vous lire ce texte et je vous demande, s'il vous plaît, de l'écouter avec beaucoup d'attention parce que vous allez voir comment certains journalistes travaillent. C'est tout à fait intéressant. Samedi, il y avait une soirée karaoké au camping de la Cornée du Der. Le temps s'avérait propice à une telle animation et la fête battait son plein. Aux alentours de minuit, une bagarre a éclaté entre de jeunes beurs venant apparemment de Saint-Dizier et cinq jeunes gens aux cheveux ras. Ces derniers seraient originaires d'Humbécourt. Cette fâcheuse péripétie semblait terminée avec le départ d'une partie des protagonistes, ceux résidant dans le village banlieue de la cité Bragarde. Toutefois, le groupe qui avait quitté la place y est revenu peu de temps après, mais cette fois armé de fusils, trois coups de feu ont été tirés en l'air, les gendarmes de poste du poste de Giffaumont sont intervenus, plusieurs individus, trois pour ce qu'on en sait, ont été gardés à vue, fort heureusement personne n'a été blessé par les projectiles. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que vous pouvez lire l'article 76 fois, vous ne saurez jamais si ce sont les jeunes beurs de Saint-Dizier ou les cinq jeunes gens aux cheveux ras d'Humbécourt qui sont revenus avec des fusils. On ne saura pas ça. En revanche, quand on écoute les informations régionales sur la radio locale, on entend ça. Trois jeunes gens au crâne rasé ont agressé sept personnes d'origine maghrébine. La cause serait d'origine raciste. Alors, autrement dit, il faut dire d'ailleurs que trois gars, aujourd'hui, qui attaquent sept jeunes beurs, c'est vraiment... Ils sont pas prudents, quoi, faut dire. Hein, bon. Mais, on avait cinq jeunes gens aux cheveux ras, et là, ça c'est dans la presse écrite, à la radio, on a trois jeunes au crâne rasé. Où sont passés les deux jeunes qui manquent? Ben, il faut téléphoner à la gendarmerie pour le savoir. Parce que la gendarmerie, voilà ce qu'ils disent, les gendarmes, eux. Ils disent 11 maghrébins ont attaqué trois militaires, accompagnés de deux petites amies. Et voilà l'histoire. Les militaires étaient venus au bal avec leur petite copine, ils étaient trois, et naturellement ils avaient les cheveux courts. Ils ont été attaqués par par d'autres personnes, en compagnie de leurs petites amies. Ils se sont probablement défendus. Et puis ensuite, il s'est passé ce qu'on nous dit, quoique la gendarmerie ne parle pas de coup de feu. Donc, on est en présence en permanence de ce genre de mensonges et de trucages. Je parlais tout à l'heure de l'université d'été du Front National à Orange. On a vu exactement ça. On avait la télévision qui diffusait les images d'une manifestation en disant que cette manifestation se tenait devant l'université d'été d'Orange. Et en même temps, on était sur place, donc on voyait ce qu'il y avait devant l'université d'été. Il n'y avait aucune manifestation. Vous entendez ? Aucune manifestation. Il y avait quelques jeunes, d'ailleurs extrêmement calmes, mais quelques, je veux dire, ils étaient 5 ou 6, de 8 à 13 ans, qui regardaient l'entrée de l'université d'été, sans aucune violence, sans aucun cri, sans aucune manifestation, sans rien. Et à quelques centaines de mètres de là, il y avait une vingtaine de timbrés qui étaient réunis, dont deux en slip, et en slip, pas en slip de bain, en slip blanc petit bateau, douteux d'ailleurs, extrêmement douteux, et une bonne femme, une espèce d'énorme bonne femme répugnante, en petite culotte et en soutien-gorge. Voilà ce qui faisait la manifestation des forces démocratiques contre le Front National à Orange. Alors, avec ce populace-là, je ne sais pas comment les caméramans de la télévision se sont débrouillés, mais ils sont arrivés à donner l'impression qu'il y avait une centaine de personnes qui brandissaient des pancartes et des banderoles. On est au fond, au cœur du trucage et du mensonge.
Mais Libération et Le Monde a annoncé 600 personnes, 600 contre-manifestants.
Mais c'est au moins 60 fois un mensonge. Ou 30 fois un mensonge, ils étaient vraiment une vingtaine. Et une vingtaine de pauvres airs, dépenaillés, crasseux, dont des gens en slip. Enfin, c'était quelque chose d'hallucinant de voir ça. Donc, quand on a la chance de pouvoir vérifier sur le terrain la réalité de l'information, on ne s'étonne plus de voir à quel point les gens, les auditeurs des radios, les lecteurs des journaux sont littéralement ahuris de abrutis de mensonges et de contre-vérités. Et on ne s'étonne plus de voir qu'ils réagissent de cette façon-là, d'une façon automatique, au point que c'est quand même étonnant que quand on a un micro-trottoir dans la rue, dans ce pays où le Front National représente 15 à 20% d'électorat, on n'a jamais un micro-trottoir qui donne la parole à quelqu'un qui vote Front National. Quand on lit Le Parisien, qui donne tous les jours 5 ou 6 ou 7 interviews flash de passants, il n'y a jamais aucun sympathisant du Front National. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est truqué, et ensuite parce que c'est vrai qu'il y a certainement des sympathisants du Front National qui ont physiquement peur de reconnaître leur engagement et leur sympathie politique, parce qu'ils se disent que ils vont avoir des ennuis et des coups. Est-ce que nous avons, ma chère Victoria, des messages ?
Les jeunes sans identité ne font jamais de délit en Corse. Est-ce parce que les Corses font leur police eux-mêmes ? Si c'est le cas, on pourrait peut-être prendre exemple sur eux.
Mais en tout cas, moi j'ai un témoignage personnel. Nous allions en vacances dans un village en Corse, où la population sans identité était de représenter 25% de la population générale du village. Eh bien, les gens de ce village avaient dit à leurs ouvriers, vous ne sortez pas en ville la nuit, le soir. Donc il y avait couvre-feu pour cette population à partir de 20h. Et naturellement, c'était scandaleux. C'était une atteinte scandaleuse aux libertés individuelles. Mais les gens s'en foutaient, les gens du village. L'atteinte scandaleuse aux libertés individuelles, ils ne voyaient qu'une chose, c'était qu'ils étaient les maîtres chez eux et que si on voulait vivre chez eux, il fallait se plier à ce qu'ils voulaient. Et les gens qui n'étaient pas contents, les gens sans identité qui n'étaient pas contents, ils avaient la ressource de partir. Alors, c'est vrai qu'en Corse, il y a une autre forme de délinquance, mais de ce côté-là, la délinquance non identitaire, elle est très très modeste. D'autres remarques ?
Autre remarque, on ne connaît toujours pas l'identité des trois jeunes qui ont poignardé à Granville dans la Manche. Pourtant, on avait dit qu'ils étaient originaires de mon département, le 93.
Oui, je dois dire qu'il y a... ça prouve pas grand-chose. Vous savez, quand on lit la presse provinciale, la presse locale, on lit souvent le Grenoblois, un tel, ou trois jeunes Stéphanois ont fait ci, ou une bande de jeunes Sarcellois ont fait ça dans un autobus, etc. Et, disons que maintenant, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les types ethniques ne recoupent plus les régions géographiques tout à fait, vous voyez. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder la photo de ce champion de course à pied danois, qui était publié récemment dans beaucoup de journaux. Moi, j'étais très très étonné de voir que quand même, depuis l'époque des Vikings, il y avait eu une certaine évolution dans le type moyen du danois. Donc je pense que ça s'explique comme ça. Oui ?
Oui.
Autre chose ?
Monsieur Serge de Beketch me déçoit, car il vient de nous raconter que dans les rues d'Orange, des gens ont manifesté en slip et soutien-gorge. Mmh. Et dire que pas un militant n'est allé les vêtir d'un manteau, et ça... l'année Saint-Martin.
Ben, si ça avait été à Tours, effectivement, on aurait fait un effort pour leur donner une moitié de manteau. Mais là, comme on était à Orange, on n'avait pas envie de leur donner une moitié d'orange.
Et un autre nous dit, j'ai vu ces bons hommes à la télé. Il y en avait un tout nu qui exhibait une pancarte indiquant « Nous sommes des artistes dégénérés
oui, ». Ben, alors, à partir de là, vous comprenez, quand ils se le servent eux-mêmes, c'est vraiment plus la peine
c'est
de
difficile.
Leur dire.
Alors, des questions sur... Parlez-nous de l'université d'été du Front à Orange.
Ah ben, l'université d'été du Front, effectivement, et on pourrait en parler un petit peu, parce qu'on ne peut pas dire que les radios et les télévisions se soient beaucoup étendues là-dessus. Le lieu, d'abord, ben, le lieu est absolument infect, il faut le dire. C'est probablement un des bâtiments publics les plus laids de France.
Oui, ça, j'ai vu le bâtiment, effectivement, ouais. À la télé.
Georges-Paul Wagner, dans Présent, a expliqué que ça ressemblait à une mûrisserie. Et c'est très exactement ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une mûrisserie de bananes. Et c'est au point que c'est inachevé. C'est-à-dire que le parking en sous-sol est encore n'est pas creusé. On a construit le bâtiment sans creuser le parking. C'est aussi vrai que je suis devant vous. Et puis, alors que la ville est une merveille, la ville d'Orange est une ville ravissante, on est quand même assez frappé de voir que les anciennes municipalités ont pu s'acharner avec une telle malfaisance à tuer en quelque sorte la tradition et l'harmonie très ancienne de cette ville. Là, on sent bien, et c'est un débat qui nous mènerait trop loin, mais on sent très très bien que il y a eu chez certains une volonté de détruire l'identité d'une ville. Je pense que l'ancien maire d'Orange, en dehors des raisons qu'il a pu avoir de faire des travaux gigantesques, ça, il aura à s'expliquer ça devant les juridictions compétentes, mais en dehors de ça, il aurait, même s'il avait voulu dépenser beaucoup d'argent, pour faire dépenser beaucoup d'argent par sa ville, pour faire plaisir à de gros entrepreneurs, il aurait pu faire des travaux de qualité, enfin des travaux esthétiquement défendables. Tandis que là, c'est quelque chose d'effroyablement vilain, et on sent qu'il y a une volonté de porter un coup mortel à l'identité d'une ville. Alors cela dit, le congrès, enfin l'université d'été a été passionnante. C'était organisé par Bernard Anthony et son équipe, et ça a été d'un très très haut niveau comme toujours, avec un discours magnifique de Le Pen, vraiment magnifique. Alors, il y a eu un moment qui était grandiose, c'est que Le Pen a commencé son discours tout tranquillement en lisant La dernière classe d'Alphonse Daudet.
Mm-hmm. Oui.
Et la tête des journalistes qui était là, alors ça valait 10 000. Mm-hmm. Les mâchoires étaient sur les genoux. Le gars ne comprenait absolument rien à ce qui se passait. Et ils ont été d'ailleurs très très secoués pendant cette université d'été, parce que tout au début, Bernard Anthony leur a dit, étant donné la façon dont vous nous traitez, vous ne croyez quand même pas qu'on va vous inviter. Donc on fait payer les militants pour venir ici, alors les journalistes, si vous voulez entrer, vous allez payer. Nous invitons les journalistes amis, nous acceptons gratuitement les journalistes neutres, mais les journalistes ennemis, il faut payer pour entrer. Alors, un type qui était là, espèce de cloporte, a dit « Et comment vous allez
trier
les journalistes amis, les journalistes ennemis ?» Alors là, Anthony a eu un coup de génie, il a dit « Mais ce n'est pas nous qui allons faire le tri, c'est vous. Si vous entrez gratuitement, ça veut dire que vous vous considérez comme nos amis. Et si vous vous considérez comme nos amis, il suffit de dire en entrant, je viens en ami et vous entrerez gratuitement. » Alors, il fallait voir la tranche des gens de rouge, de luma, de je sais pas quel torchon. Ah, ça vraiment, ils étaient déchirés entre le souci de dépenser leurs petits sous et l'impossibilité où ils étaient quand même de dire qu'ils venaient en ami. Alors, ça a été très rigolo. Il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu venir au dîner pour ne pas payer les 200 francs obligatoires. Et c'était bien, comme ça, on était tout à fait tranquille. Et là, il y a eu, au moment du dîner, encore un moment tout à fait étonnant. C'est quand, au début, tout au début du dîner, on a entendu un chant extrêmement nationaliste, sur une musique moderne, mais des paroles d'un patriotisme très exalté, et puis chanté par un homme, et la contre-voix, enfin plus exact, ça c'était le refrain, et les couplets étaient chantés par une voix de femme, une voix magnifique, une voix de cantatrice, plutôt de jeune chanteuse de très beau blues, avec ses voix afro-américaines splendides. Et tout le monde s'est tourné et on a vu entrer une splendide jeune femme, comment peut-on dire maintenant, je sais plus quel mot on peut employer sans choquer personne, afro-européenne, d'origine malgache, avec une voix magnifique, un sourire splendide, qui s'est avancée en chantant qu'elle adorait la France, qu'elle aimait la France et qu'elle était bien contente d'être française, et qui est venue embrasser Jean-Marie Le Pen. Alors là, pour la deuxième fois de la journée, les journalistes ont été obligés de remonter leur mâchoire avec une petite manivelle, parce qu'ils comprenaient vraiment plus ce qui se passait. Et c'était très très amusant. Voilà, bon, à part ça, bien entendu, on a remis à Arrête, Alexis Arrête, un prix pour le livre qu'il vient de publier, que je vous recommande, on en parlera plus longuement peut-être avec lui, qui s'appelle On m'appelait Bleu Noir, qui est un livre de mémoire, ses mémoires de soldats et de militants, qui est une splendeur aussi, ce très très beau livre. Et puis on a entendu des discours on a travaillé dans les ateliers avec des gens passionnants comme Jean Madian, comme Georges-Paul Wagner, comme Maigret, comme Jean-Claude Martinez, Anthony, etc. C'était vraiment un grand moment. En plus, une ambiance vraiment très amicale. Voilà.
Vous avez participé, je crois.
Oui, on a fait une table ronde sur la nécessité et l'urgence d'un tribunal pour juger les crimes du communisme. Mais ça n'a pas été réussi, je le dis, parce qu'il n'y a pas de raison de raconter des histoires. Ce débat a été un échec, d'une part parce qu'il est intervenu juste après la conférence de Madiran, et que bon, on partait avec un quand même très 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 gros handicap, puisque c'était pratiquement sur les mêmes sujets, et d'autre part, les conditions techniques étaient mauvaises, puisqu'il y avait un seul micro pour six personnes, et c'est impossible d'organiser un débat avec un micro pour six personnes. Et puis, voilà, pour tout un tas de raisons, ça a été raté, mais j'espère que l'année prochaine, ça sera réussi.
Il y aura 6 micros.
Voilà, par exemple. D'autres questions
L'affaire de Vitrolles a mis en évidence l'étrange comportement de la police nationale. Chez moi, la police refuse de recevoir des plaintes sous le prétexte que ça ne sert à rien. Et le plus grave est quand elle refuse d'arrêter les agresseurs d'enfants, alors que l'on connaît l'adresse exacte de ces agresseurs.
Mais vous savez, il y a dans le dernier présent un dessin qui est définitif, à mon sens. C'est un coin de rue, d'un côté du coin, une femme qui est agressée et qui crie « police au secours », et de l'autre côté, deux types qui sont en train de passer un tabac, un flic par terre, et un des types qui passe un tabac lui dit « dis donc, t'entends, on me demande ». Donc, effectivement, les policiers à l'heure actuelle en France sont... mis dans l'incapacité d'accéder à certains quartiers, tout le monde le sait, les ministres ont beau dire que c'est pas vrai, ça ne prouve qu'une chose, c'est que les ministres sont des menteurs, les ministres successifs d'ailleurs, tout le monde sait qu'il y a des quartiers qui sont absolument interdits à la police, tous les policiers racontent en privé que le matin au briefing, les chefs de service ou les commissaires ou les capitaines comme on dit maintenant, leur rappellent qu'ils ne doivent pas poursuivre, qu'ils ne doivent pas entrer dans tel quartier, qu'ils n'ont pas le droit de suite, qu'ils ne doivent pas intervenir, etc., etc. Et je vous répète, il suffit d'aller dans un commissariat pour dire « j'ai été bousculé dans le métro, j'ai été giflé, on m'a arraché mon sac ou on m'a cambriolé » pour voir que, tout simplement, on refuse d'enregistrer votre plainte. On vous explique que ça ne sert à rien et que, de toute façon, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, et puis que maintenant, c'est plus possible. Faites l'expérience, allez tout simplement dans un commissariat pour essayer de porter plainte et vous verrez. Donc, le témoignage de notre auditeur ne m'étonne pas le moins du monde. C'est bien bien clair qu'à l'heure actuelle, la police est dans l'incapacité quasi totale de faire son travail.
Alors à propos de la sécurité en Corse, je suis corse, je viens d'y passer 5 mois. Vous pouvez partir de Bastia, faire 30 km à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il ne vous arrivera rien. Pourquoi ? En Corse, si vous touchez aux vieux, aux femmes, aux enfants, il vaut mieux être arrêté par la police, sinon...
Oui, oui, mais parce que c'est une société traditionnelle qui a gardé ses principes, les principes qui font les principes des sociétés, et qui consiste à dire que d'une part, chacun assure sa propre protection, il délègue ce soin à la police quand la police est en mesure d'assumer ce travail, mais si la police n'est pas en mesure d'assumer ce travail, chaque citoyen est fondé à assurer soi-même, lui-même, sa propre sécurité. Ça, ils l'ont compris. En Corse, c'est resté un impératif, alors que sur le continent, c'est devenu un scandale. Le seul fait de dire qu'un citoyen a le droit d'assurer sa propre sécurité est considéré aujourd'hui comme un appel à l'autodéfense et aux milices. Et en Corse, c'est pas comme ça.
Pourriez-vous nous parler un peu des journées mondiales de la jeunesse ?
Non, je pourrais pas en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'y étais pas. La deuxième, c'est que j'ai pas d'opinion. J'avais une mauvaise opinion avant. J'ai une un peu moins mauvaise opinion après parce que je crois que ça a eu un effet, en tout cas, de sidération sur la racaille, qui était abasourdie de voir à quel point tout ce qu'elle racontait depuis des mois était faux. Ça a permis de voir aussi qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne marchent pas, ne coupent pas dans la cochonnerie actuelle. Ça a permis de voir que les journalistes sont des imbéciles, des salauds et des menteurs de façon majoritaire. Et là, je cite nommément les gens de Marianne qui se sont couverts de ridicule en annonçant que ça allait être un échec, que les estimations à 550 000 devaient être vues à la baisse, etc. etc.
Résultat, Le Monde avait annoncé 65 000 personnes pour les Français, mais ils avaient dit que comme il y aurait 75 000 Italiens, on naviguerait autour de 130 000, 150 000 personnes.
Alors,
or, il y en a eu 1 million.
On va pas dire que ces gens-là se sont déshonorés, parce que pour perdre quelque chose,
ça fait déjà longtemps qu'ils se sont déshonorés.
Mais enfin, si moi je considère qu'un Français à l'heure actuelle qui continue à lire cette presse de merde, passez-moi l'expression, c'est lui qui se déshonore, c'est tout. Il faut vraiment, une fois pour toutes, boycotter cette presse de cochons et de menteurs, et puis arrêter de leur filer du fric. Laissez donc les banques et les grandes agences de publicité les engraisser, mais ne leur donnez plus votre argent. Si vous tenez absolument à acheter des journaux, je suis tout disposé à vous donner des idées de titres. Non, mais voilà. Et puis, pour le reste... Je crois que, je sais pas, j'y étais pas, donc j'ai pas vu l'ambiance. Je sais que certains amis qui étaient là-bas, qui étaient tout à fait hostiles à ces JMJ avant d'y aller, en sont revenus bouleversés. Je pense à Jean-Paul Chériguès, par exemple, qui en a parlé à Daniel il y a quelques heures au téléphone, et il a dit qu'il avait été stupéfait, notamment par l'extraordinaire qualité du silence qui accompagnait la prière. Alors bon, je sais que je suis partagé entre ce que dit ce qu'avait dit l'abbé Laguéry sur le caractère un peu artificiel de ces grands rassemblements en disant que ces jeunes venaient se shooter à l'encens, ce que j'avais trouvé assez drôle.
C'est une jolie formule.
Et puis entre ce que disent ceux qui étaient là-bas et qui ont quand même été très très frappés par l'extraordinaire rassemblement de le reproche qu'on pourrait faire, mais parce que moi j'en finis, je vous dire exactement ce que je me dis parfois. On va encore dire que j'ai l'obsession du complot, mais on a l'impression que le pape est tenu et qu'il est en quelque sorte il fait l'objet d'une sorte de chantage à la terreur. Moi je vois pas d'autre explication. Quand à cette espèce de silence ou de discours feutré qu'il a quand il est devant 1 300 000 jeunes. Parce qu'il y avait, d'après les organisateurs, qui est pas du tout, le technicien organisateur, qui est pas du tout un catho, du tout, a dit, il y a 1 million de personnes, sur le terrain devant, et il y a à peu près 200 000 à 300 000 personnes autour. Donc il y avait environ 1 200 000 à 1 300 000 personnes. Dans la plupart des jeunes gens et des jeunes filles. Quand c'était l'occasion ou jamais de dire, une fois pour toutes, l'avortement est un crime, il faut absolument mettre un terme à ça, etc. Bon, il faut vous mobiliser pour soutenir les sauveteurs et tout. Pourquoi il l'a pas fait ? Alors on peut dire c'est parce que il se désintéresse de cette question, mais on sait bien que non, puisqu'il y revient tout le temps. Et d'autre part, s'il se désintéresse de cette question, il ne met pas cette espèce d'obstination à aller sur la tombe du professeur Lejeune, comme pour dire, voyez, il y a un message que j'apporte. Je vous demande de comprendre et d'entendre ce message. Je ne peux pas le dire plus fort, je ne peux pas le dire autrement. Pourquoi ? Mais écoutez, je vais vous dire ce que je pense au fond de moi-même. Vous allez me prendre pour un fou, hein ? Mais tant pis, une fois de plus. Je me demande si il n'y a pas une espèce de terrorisme physique qui fait qu'on a dit au pape, voilà, c'est très simple, hein, on a les moyens de faire quelque chose de très 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 sanglant si vous intervenez officiellement sur ce point-là. Si vous dites certaines choses, il y aura des représailles sanglantes. et il y aura des dizaines et, peut-être des centaines de morts. Et vous n'aurez aucun moyen de vous y opposer. Imaginez que quelqu'un fasse savoir ça au pape, en disant, si vous parlez officiellement de l'avortement, nous ferons ça. Je dis bien que vous allez me prendre pour un fou. Mais le pape se tait. Et c'est la seule explication que je trouve à ce silence.
Vous ne croyez pas que c'est plus simplement parce que le pape a tendance à s'adapter en fonction du public qui se trouve en face de lui?
Mais là, il avait un public formidable, même un public de jeunes filles qui n'attendaient évidemment que ça. La majorité n'attendait que ça. Or, on ne leur a pas dit ça. Il ne leur a pas dit. Il leur a dit d'une façon, en quelque sorte, allusive, en allant sur la tombe du professeur Lejeune, avec un luxe de précaution, de discrétion, qui n'a fait d'ailleurs que donner un sens encore plus lourd à ce geste. Donc, voilà, je m'interroge, c'est tout, je n'ai pas de réponse.
Qui sont les deux personnes que Serge de Becketch a saluées en début d'émission? Pourquoi pourrait-on avoir des détails sur eux? Je ne me rappelle pas. Qui vous avez salué?
Non, moi non plus. Ah, ben si, si, oui, bien sûr. J'ai salué...
Ah oui, c'est vrai, oui.
J'ai salué messieurs Mendès et Prazan, qui sont... Alors, écoutez, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais lire très exactement ce qu'ils sont, parce que on ne voudrait pas qu'on m'accuse. Voilà. Voilà. Ces deux universitaires décryptent les ondes de Radio Courtoisie pour les auditeurs de Radio Communauté Juive, où ils sont animateurs à leurs heures. Donc voilà, ce sont des gens qui nous écoutent, qui sont des universitaires, qui sont apparemment, je sais pas, universitaires, c'est employés de l'université, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc ce sont des employés de l'université, autrement dit de fonctionnaires, si j'ai bien compris, qui sont payés pour écouter mon émission et la décrypter à l'usage d'une radio qui s'appelle Radio Communauté Juive, que je ne connais pas. Donc, je voulais les saluer confraternellement.
Oui, oui,
et puis, c'est toujours agréable de savoir qu'il y a des universitaires qui se penchent sur notre cas. Hein, à l'époque de Staline, il y avait aussi des universitaires qui se penchaient sur le cas de certaines personnes, des universitaires qui étaient d'ailleurs en général des médecins, des spécialistes de psychiatrie, et quand on se penchait sur le cas, ils se penchaient sur le cas des gens, eh bien, ces gens-là étaient mis dans des asiles. Enfin, pour l'instant, je ne suis pas encore en asile, mais ça ne va pas tarder.
Ils ont même entrepris de rédiger un petit lexique, un petit glossaire pour décoder et décrypter les mots qui sont employés sur les ondes de Radio Courtoisie.
Le glossaire du non-dit. Alors,
vous rappelez que c'est dans le dernier numéro de l'événement du jeudi.
Voilà, vous entendez que. Pays réel, quand on dit pays réel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vision spécifique de la nation, celle qui s'est manifestée lors de la contre-révolution, opposée en tout point au pays légal des Jacobins. Le pays réel fait référence à un système d'État où la légitimité du pouvoir provient de la nature des choses. On n'est plus élu mais investi, on ne gouverne pas, on dirige. L'ordre naturel prévaut sur l'ordre social. Vous voyez, moi j'ai appris plein de choses.
Oui, on apprend beaucoup de choses dans l'événement du jeudi.
Formidable, merci.
Donc, mais ne faites donc pas de publicité, c'est nul. Alors, est-ce que je peux vous parler?
Justement, il faut le lire pour que les
gens le lisent.
Non,
ne
le lisez pas, mais alors empruntez-le, allez le lire dans les bibliothèques des mairies, mais surtout ne l'achetez pas, c'est pas la peine de leur faire. De leur donner des sous.
De toute façon, vous n'avez que quelques heures encore pour pouvoir l'acheter.
Très bien, ben, ne l'achetez pas, vous serez tout aussi tranquille. Pouvez-vous nous préciser le titre du chant très nationaliste que vous venez d'évoquer? Il n'y a pas de titre, vous avez dit que vous ne saviez plus les paroles, mais que c'était très bien.
Oui, oui, voilà.
Bon, le PS placarde des affiches en Seine-Saint-Denis affirmant le Front National vous ment. N'y aurait-il pas un moyen d'agir contre ça?
Oui, peut-être, je ne sais pas. Ça,
sur les affiches, pas tant que vous.
je vois pas de solution, hein. C'est ça, ça fait partie de la bagarre politique classique.
Là, tout de même, il y a des choses qui se passent. Gilles Servat, je crois, et autres chanteurs bretons, lors des concerts en plein air, insultent le Front National, alors que l'on vend leurs cassettes au BBR. Et ben, ça prouve que
ces
cassettes-là, qu'on doit vendre, et qu'on trouve qu'ils ont du talent et que nous ne sommes pas sectaires. Je fais les demandes et les réponses.
Vous avez vu, tout à fait, vous avez raison. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. Il y a deux marques de bière, je signale, qui suppriment leur publicité à tous les journaux qui n'insultent pas le Front National. C'est Cronenbourg et Guinness. Cronenbourg et Guinness ont supprimé leur publicité, entre autres un journal qui avait publié deux interviews sur l'immigration en face à face. D'une part, Kofi Niam Niam, et d'autre part, Le Pen. Alors, ils ont bien fait savoir que ça n'était pas pour protester contre l'interview de Kofi Annan, mais c'était pour protester contre la diffusion d'une interview de Le Pen. Ils ont donc supprimé leur publicité à ce journal. Je rappelle les bières Kronenbourg et les bières Guinness. Les bières Kronenbourg et Guinness suppriment toute publicité aux journaux, naturellement, du Front National ou sympathisants, ça, ça va sans dire. Mais même aux journaux qui parlent du Front National d'une façon non négative. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout, je vous le signale.
Au début de l'année, on
les, les hôtels Mercure,
oui.
Les hôtels Mercure, l'hôtel Mercure d'Orange, a refusé de recevoir Le Pen qui voulait réserver une chambre pendant l'université d'été.
Eh bien, n'allez plus à l'hôtel
voilà.
Mercure.
Ah ben non, moi je dis pas ça, je donne pas de conseils, moi. Je donne pas de directive, je dis simplement ça. Si l'hôtel Mercure ne veut pas de gens...
Vous aurez besoin de louer quelque
si les hôtels Mercure ne veulent pas de gens du Front National, il faut surtout pas les embêter. Enfin, écoutez, il n'y a pas de raison. Nous, on est des citoyens respectueux de chacun et on veut pas infliger notre présence aux hôtels Mercure. De même qu'on veut pas infliger notre clientèle. Enfin, moi, par exemple, je veux pas du tout infliger ma clientèle à Kronenbourg et à Guinée. Je sais qu'ils seraient désolés de savoir que mon fric, aussi peu que ce soit, le sale fric de l'extrême droite leur tombe dans les poches. Donc, moi, personnellement, ça, je ne leur infligerai pas du tout ça.
Je suis agent RATP. Pendant les JMJ, nous avons été confrontés à des millions de jeunes et il n'y a pas eu le moindre incident ni la moindre déprédation. C'était extraordinaire et je tenais à apporter ce témoignage.
Oui, et c'est un témoignage qui recoupe tout à fait celui des employés de l'hippodrome de Longchamp qui avaient prévu 4 jours de nettoyage après l'immense réunion qu'il y a eu et la messe avec des jeunes qui ont dormi sur place, etc. Donc plus d'un million de jeunes qui ont dormi sur place. Et ils ont écrit dans un journal de course que un ami m'a adressé hier. Ces gens-là ont écrit qu'ils avaient été stupéfaits de constater que le travail qu'ils avaient estimé nécessiter 4 jours avait été accompli en 4 heures. Parce que quand ils sont arrivés sur le terrain, il était absolument impeccable. Il n'y avait pas un bout de papier par terre. C'était parfaitement propre et parfaitement nickel. Donc évidemment, cette population est une population qui ne ressemble pas à celle des concerts de rock ou des concerts de ou des concerts de rap. Ça, c'est très très clair qu'il s'agit de jeunes gens. L'erreur serait probablement de dire qu'il s'agit de jeunes gens exceptionnels. Je crois qu'il s'agit de jeunes gens qui sont le reflet de la véritable jeunesse de ce pays et de la véritable jeunesse de l'Europe. Les autres, ceux dont on parle à longueur de pages, de colonnes dans la presse crapuleuse, ne représentant qu'une toute petite minorité, une minorité répugnante, agissante, crapoteuse et crapuleuse, mais une minorité qui mobilise l'attention et qui est agissante, évidemment.
Un auditeur qui vous a mal entendu ou mal compris, vous êtes un peu paranoïaque et excessif en parlant au mal du pape, qui me paraît être un saint homme, vous n'avez jamais dit le contraire.
Non, c'est désolant, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut écouter.
Écoutez mieux, ne soyez pas distrait. Ce qui m'a frappé, dit cette auditrice, c'est la tristesse du pape durant les JMJ. Moi, je ne l'ai pas trouvé triste tout le temps, je l'ai trouvé triste à Évry, à la cathédrale d'Évry. Oh, là, il était accablé, il n'était pas triste, il était accablé. D'ailleurs, on a cru qu'il n'arrêterait pas de prier.
Non, je ne crois pas que ce soit un homme triste, je crois que c'est tout simplement un homme qui est extrêmement malade, usé et fatigué, et que quand on est dans cet état-là, il y a des moments où on n'a pas envie tout le temps de sourire, on voit bien. D'abord, il a toujours eu cette attitude de
recueillement.
De recueillement, voilà, c'est
moi. Oh, il avait quand même l'œil.
Oui, mais de temps en temps, il a. Mais non, c'est évidemment un homme fatigué. Puis c'est un homme qui est probablement en proie à une souffrance morale terrible. Je pense que quand il voit l'état de l'Église, que comment voulez-vous que le pape ne soit pas accablé de tristesse quand il était entouré de ces évêques-là? Comment voulez-vous?
Ah, c'était extraordinaire. Le moment où, à l'Église, justement, à la cathédrale d'Évry, il est en prière sur son prie-Dieu et qu'il reste assez longtemps, de voir les têtes tout autour de lui et qui se disaient, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt ou quoi? Bon, ils avaient vraiment, et ça faisait, vous savez, les rapaces qui sont autour, je ne sais pas, c'était un
effet. Non, alors moi je crois, s'il est triste réellement, il y a probablement une explication à cette tristesse, c'est l'effroyable, l'état de déliquescence, de corruption et de cochonnerie de l'épiscopat français.
Bon, ne développons pas ce sujet, on le retourne. Alors, sur les JMJ, dans National Hebdo, François Brignou a dit ce qu'il y avait à dire et ce qu'il en pensait. Par ailleurs, avez-vous lu Pierre, m'aimes-tu, de l'abbé Daniel Leroux?
Non.
Bon,
voilà, comme ça.
Vite résolu. Changeons de sujet, au début de l'année, on nous avait réduit les impôts de 6%. Or, actuellement, lorsqu'on reçoit le solde, on constate que les 6% y ont été réintégrés.
Ah tiens, c'est amusant, je ne savais pas ça, c'est une information intéressante, j'espère qu'elle est, enfin j'allais dire j'espère qu'elle est vraie, non c'est pas ça, si c'est vrai c'est tout à fait intéressant.
Pouvez-vous nous dire deux mots sur les élucubrations de Claude Allègre?
Alors il a dit un mot extraordinaire, ça vaut tout, il a dit il faudrait quand même arrêter de considérer que l'anglais est une langue étrangère. Donc voilà, là on a tout compris, effectivement. Vous savez, on en rit, mais c'est très grave. C'est dramatique.
Michel Serres avait tenu les propos exactement contraires.
Oui, mais Michel Serres n'était pas ministre.
Oui, il n'était pas ministre. Mais il avait dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu moins de mots prononcés par les Français en allemand que de mots anglais prononcés aujourd'hui par les jeunes Français.
Ouais.
La semaine dernière, sur France 3, on nous a présenté quelques reportages concernant, oh oui, les nouveaux emplois concoctés par Madame Aubry pour les jeunes, entre autres fantaisie. Enfin, une jeune beurette sera chargée d'enseigner la danse du ventre aux autres beurettes de sa banlieue, et cette initiative se reproduira dans la plupart des banlieues, une façon comme une autre d'intégrer les jeunes Français d'origine étrangère.
J'ai mis à profit mes vacances pour lire le journal des Goncourt. Eh bien, dans le journal des Goncourt, j'ai découvert que... Ça fait 5000 pages quand même, on s'ennuie pas. Hein.
Oui, oui.
J'ai découvert que Madame... Comment elle s'appelle? Aubry?
Mais non, Madame Aubry, oui.
Oui, Aubry. Madame Aubry n'a rien inventé, mais rien du tout. Et en plus, elle a même oublié des choses. Parce que dans le journal des Goncourt, Edmond raconte le dialogue suivant. « Quel âge avez-vous, mon garçon? 20 ans, monsieur. Et que faites-vous dans la vie? Je suis remueur de bottes, monsieur. » Remueur de bottes? Mais qu'est-ce donc ce métier-là? Eh bien, monsieur, je travaille au bordel. Je tiens des ficelles au bout desquelles sont attachées des bottes. Et quand un client fait des manières pour payer, je retire sur les ficelles, ce qui fait sonner les bottes contre le plancher, et la maquerelle explique que ce sont les macs de ces dames qui descendent pour dresser les côtes du mauvais payeur. Alors, je soumets cette proposition à Madame Aubry. Faites donc dans les innombrables bordels de ce pays des remueurs de bottes. Vous embauchez des gars qui tireront sur les ficelles et qui remueront les bottes pour qu'on croie que les macs viennent remettre de l'ordre. Hein?
En Nouvelle-Calédonie, Jacques Chirac a offert un dîner républicain. Quand ce n'est pas républicain, c'est comment? À la sauce tomate? Que devient l'affaire du...
On a bien... J'espère qu'ils ont servi du homard thermidor.
Que devient l'affaire du Comorien de Marseille? Pouvez-vous nous donner des éléments?
On n'a pas d'informations du tout récentes. En revanche, à propos de des Comores, on est quand même là en présence d'une affaire tout à fait extraordinaire avec cette revendication d'enjouement de réintégrer le sein de la mère patrie qui suscite un refus effarouché de la dite mère patrie. Et là, la Grande Comore vient d'envoyer des tueurs, carrément, pour liquider les indépendantistes, ou plutôt les loyalistes pro-français en Jouannais. Et on n'a pas entendu qui que ce soit élever la moindre protestation au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire que, en ce moment même, avec le feu vert de la France, et probablement d'ailleurs avec l'aide technologique, logistique et peut-être même humaine de la France, la Grande Comore est en train d'organiser la liquidation de l'opposition à Anjouan, avant d'ailleurs d'aller faire la même chose à Mohélie, parce qu'il faut savoir que aux Comores, entre Grande Comore, Anjouan et Mohélie, et Mayotte, qui est restée française, qui est la seule île des Comores qui soit restée française, il y a une différence de niveau de vie qui est tellement inimaginable que les Mahorais passent des heures et des nuits à essayer de traverser pour se réfugier à Mayotte, essayer de traverser le lagon, en quelque sorte, enfin la mer, pour se réfugier à Mayotte, pour échapper à la misère. Donc là, on a donné l'indépendance aux Comoriens, au nom des droits de l'homme, et 30 ans plus tard, on les condamne à mort parce qu'ils sont incapables de gérer eux-mêmes leur propre pays. Alors du temps de Mitterrand, c'était différent parce que Mitterrand considérait que la Grande Comore était sa propriété personnelle. Il considérait qu'il était propriétaire de la Grande Comore, au point d'ailleurs qu'il avait lui-même acheté la vaisselle présidentielle qui servait là-bas. Bon, mais maintenant, ce qui est en train de se passer en juin, c'est déshonorant. Et quand on voyait les images à la télévision de ces pauvres malheureux qui se promènent avec en brandissant des portraits de Chirac avec des drapeaux français, en disant « La France toujours et nous voulons redevenir français », on se dit que vraiment, on a honte de vivre sous un régime d'une crapulerie, d'une ignominie et d'une lâcheté aussi épouvantable.
Merci à Serge de Bekech. Je viens d'acheter ma dernière boîte de Cronenbourg. À propos d'Elisabeth Huber, ce n'est pas plus étonnant ce qu'elle fait, que lorsque deux femmes de ministres s'occupent de l'information sur des chaînes privées comme publiques.
Oui, avec cette différence, c'est qu'elles sont devenues femmes de ministres alors qu'elles étaient déjà journalistes.
Oui.
Tandis que Mme Huber, elle est devenue ce qu'elle est devenue après avoir été ministre.
Entendu sur France Culture le 20 août, Pierre Legendre, professeur de droit, la mise sous séquestre de la pensée est un des grands problèmes d'aujourd'hui. C'était à France Culture.
C'est pas à nous qu'il faut le dire, ça c'est à Guessot et compagnie.
Rappelez donc l'information parue fin juillet selon laquelle M. Laurent Wetzel, conseiller général des Yvelines, ex-QDF, a rallié le Front National.
Ben oui, c'est tout à fait ça. Je suis d'une émission, à la fin d'une émission de cette d'une émission sur ce micro, il a annoncé qu'il adhérait au Front National. Et alors c'est là qu'on voit comment, encore une fois, ces journalistes font leur travail. C'est désolant. L'AFP n'a publié l'information qu'après les journées de l'université d'été d'Orange. Université d'été à laquelle Wetzel a participé, a présenté son livre « Un interdement politique sous la Ve République » et qui a fait d'ailleurs un tabac incroyable. Il a vendu pas de centaines, mais il y avait à peu près 500 personnes à l'université. Je crois qu'il a dû vendre plus de 100 bouquins quand même. Et les gens venaient lui en parler. Ce qui était tout à fait étonnant, c'est que ils achetaient le livre l'après-midi, et le lendemain matin, ils venaient lui en parler en lui disant « On a passé la nuit à le lire ». Et c'est vrai que c'est un livre tout à fait passionnant. Bon, et donc l'AFP, je crois que c'est l'AFP, a publié un communiqué disant « Monsieur Laurent Wetzel, ancien maire de Sartrouville, a rendu public son adhésion au Front National ». Il avait subi un internement d'office en 1995. Alors, d'une part, c'est pas vrai. Il explique bien dans le bouquin que c'est pas un internement d'office, c'est tout simplement un rapt, c'est une séquestration arbitraire, il n'y a aucun internement d'office là-dedans. Et d'autre part, on voit très bien la canaillerie de cette formulation qui tente à assimiler l'adhésion au Front National à une démonstration supplémentaire de fragilité mentale. Alors, il a fait publier d'ailleurs un rectificatif très à cheval, et je pense que ça aboutira devant les tribunaux. D'autres questions ?
Un auditeur paresseux vous supplie de lui donner la date du journal des Goncourt dont vous avez donné une citation, enfin la page en quelque sorte, parce que étant donné qu'il est très gros, il aura du mal à la retrouver.
En tout cas, c'est dans le tome 2, je suis sûr. C'est dans le tome 2, et ça doit être... au début de la deuxième partie du tome 2. Mais s'il m'envoie un petit mot, soit par Minitel sur le 3615, soit au Libre Journal 4 Place France Litz, je lui transmettrai la précision.
Alors, à propos de la messe de Longchamp, contrairement au livret distribué, le Notre Père a été récité en latin par le pape, et même que les évêques ont mis du temps à suivre.
Oui, mais ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie de ces signes, de ces espèces de clins d'œil qui ont été lancés par le pape, ce qui me fait dire que c'est pas un homme libre, et c'est pas un reproche que je lui fais. Je crois qu'il est l'otage de forces qui le dépassent et qui l'effraient.
Et puis alors, on vous signale un mot d'argot utilisé autrefois, le journal, c'était un baveux. Alors on dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart de nos journaux pourraient avoir...
C'est vrai qu'un baveux, c'était un journal parce que ça bavait sur les doigts. Et un avocat qu'on appelait un baveux.
Et il y avait l'avocat aussi. Et puis, à propos de Montéus, un auditeur nous envoie le curriculum vitae de Montéus. Tandis qu'un autre vous dit, félicitations d'avoir l'idée de nous passer de très anciens disques de chanteurs humoristiques politiquement incorrects. Car nous voyons que rien n'a changé. Nous sommes dans les mains des mafieux criminels et assassins. Tata. Bon, il va falloir qu'on se fâche un peu plus que de dénoncer sans agir. Est-ce que vous voulez le curriculum? Non, pas de curriculum.
Le curriculum.
De Montéus.
De Montéus, ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Mardoché Brunswick dit Montéus, né en 1872, chansonnier anarchiste, antimilitariste, auteur de « Salut, salut à vous,
bravo bon, soldat du 17e ».
Et à la grève des mers, ça j'ai oublié la
parole. Ah ben on va le passer, la grève des mers, oui.
« Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mers aux bourreaux, crie ta volonté, etc. etc. » Franc-maçon, Grand Orient, loge l'Union de Belleville, en 1914 devint ultra-patriote et habillé en poilu, chantait « J'ai gagné ma croix à la guerre pour... » L'avoir, j'ai donné mon sang. Il mourut en 1953 après avoir écrit un dernier roman, L'évadé de Buchenwald, Colston, tome 2, ça y est, assez renseignement.
Dites-moi, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de super informé là, qui nous envoie ça.
Justement, il a lu Colston, hein? Forcément. Ah bah oui.
Ça, vous savez à quoi ça fait penser? Cette qualité d'information, ça fait penser à la qualité d'information de certains papiers de François Brignot.
Voilà.
Hein, on a l'impression que c'est un historien, il n'y a pas... Il n'y a pas un pli et tout. Alors, mais comme c'est un lecteur de Colston, il connaît certainement Brignot.
Un auditeur vous dit, ravi de réentendre Serge Bekatch. A-t-il un pitbull?
Et donc, je disais que j'ai pas de pitbull, mais il se trouve que Caramel ressemble à un pitbull.
Oh non, voilà.
Si, si. Ah ben, un policier l'autre jour est venu me voir en me disant, monsieur, vous devez tenir votre chien muselé. C'est un Staffordshire, je sais pas quoi. Je lui dis, monsieur, restez dans la police. Ne devenez surtout pas vétérinaire parce qu'à mon avis, vous allez pas faire beaucoup de clients. Voilà. Mais je disais en tout cas que, en ce moment, si quelqu'un veut vraiment avoir des emmerdements, il faut qu'il soit paparazzi, propriétaire de pitbull et révisionniste. Alors là, il a vraiment du souci à se faire.
Tiens, puis j'ai une petite annonce. De la part de... Enfin bon, on vous donnera le numéro si vous en avez envie. Il y a 4 petits chats à adopter dans la région de Chartres. Donc si vous êtes intéressé, bon, manifestez-vous.
Voilà, si vous voulez adopter... Alors voilà, ça c'est la dernière. Je connais quelqu'un qui doit être enchanté de voir que cette émission est en train de se transformer en émission d'adoption, enfin de petites annonces pour adoption de petits chats. Donc il y a des petits chats à adopter. Si vous voulez adopter des petits chats, vous pouvez écrire au Libre Journal, on transmettra. Selon vous, est-ce qu'une alliance est possible au sein de la droite? Quand on pose la question à M. Griotré, il ne répond jamais. Eh bien, moi je réponds oui, une alliance est possible au sein de la droite, bien sûr. Et tous ces gens-là n'ont qu'à rejoindre le Front National et tout ira bien. Faris May nous a téléphoné aussi. Il dit qu'il est frappé d'entendre des députés qui ont été battus d'une manière sévère. Et il dit, mais pourquoi n'avait-il pas démissionné comme l'avait fait en son temps Jean-Pierre Chevènement pour l'affaire du Golfe? Et pourquoi n'ont-ils pas démissionné ces gens-là lorsque Abou Ababakar Diop, l'homme au téléphone portable, squattait une église alors qu'il était avec les siens des clandestins et qu'il défiait ainsi le gouvernement et la législation et la légalité? Eh ben oui, on peut se poser la question, mais je pense que si les députés ne démissionnent pas, c'est parce que la place est très très bonne. C'est tout.
C'est tout pour le moment.
Alors on va écouter, comme je vous l'avais dit, et pour faire plaisir à notre historien ferré à glace sur Montéus, je suis pas sûr que ça lui fera plaisir, mais ça va l'amuser quand même. Je pense qu'il a suffisamment d'humour, je sais qu'il a tout l'humour nécessaire. On va écouter quelque chose qui aujourd'hui pourrait inspirer nos féministes et nos abortionnistes.
La grève des mères, à Cartoir, Montéus. La mitraille, puisque les fusils et canons font dans le monde des entrailles,
grandes mares, les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages, dire ni le Dieu, fraternité. Femme de vous, femme frage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, on bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Père de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la queue assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
C'était bien, non? Oui. Ah bah la guerre et les tyrans.
Oui, 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 oui.
Chanson pacifiste. Mais c'est d'autant mieux que, comme on nous l'a dit tout à l'heure, en 14, cet homme-là...
Oui, il a changé complètement son fusil d'épaule. Enfin, le fusil qu'il n'avait pas, il l'a mis, quoi. Vous venez de dire qu'à l'université d'été d'Orange, il y avait 500 personnes. Alors, sur Radio Le Pen, on parle de 1000 personnes, tout de même.
Ben, je crois que c'est tout simplement parce que moi, je parle des gens qui ont participé aux travaux de l'université, dans les ateliers et dans la salle de plénière, en quelque sorte. Là, il y avait 500 délégués, et bon, il ne pouvait pas y en avoir plus, tout simplement, puisque la salle n'était pas plus grande que ça, et qu'on a donc à l'entrée, je le sais puisque c'est arrivé à certains de mes amis qui étaient venus, pour faire visite, on leur a dit on peut pas vous laisser entrer, les conditions de sécurité sont insuffisantes pour qu'on puisse accepter plus de monde dans la salle. En revanche, au soir du dîner et dans les manifestations annexes, le banquet, des choses comme ça, il y avait 1000 personnes, oui certainement. C'était gigantesque le dîner, c'était dans un hangar. Encore une fois, bon, je le dis parce que, évidemment, Bompard n'y est pour rien, puisque c'est l'ancienne municipalité, mais de toutes les villes de France qu'il m'a été donné de visiter, Orange est probablement la ville qui a été la plus abîmée et dans laquelle la construction municipale est la plus agressivement, scandaleusement et je dirais diaboliquement laide. On était pour dîner dans un hangar, il fallait vraiment avoir beaucoup d'appétit pour manger.
Il fallait s'abstraire de l'environnement. Question d'un auditeur. Ferez-vous une émission mercredi prochain? Car je suis chauffeur routier et je fais mon emploi du temps en fonction de votre présence ou non.
Ça, c'est très gentil.
Ça, c'est un fan.
Ah ben alors voilà, je ferai l'émission jeudi prochain si Dieu veut.
La moitié avec Daniel.
C'est amusant ce que dit ce monsieur parce que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone au Libre Journal d'un monsieur qui m'a dit « Est-ce que vous faites l'émission ce soir ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit « Bon, voilà, ben alors on va prendre la voiture parce que il faut qu'on fasse 200 km pour pouvoir vous entendre. » Parce qu'on n'est pas dans la zone d'écoute de Radio Courtoisie et donc on va faire 200 km. Alors j'ai trouvé que c'était tout à fait sympathique et je leur ai dit que je penserais à eux pendant cette émission.
Et on va avoir bientôt des plus nouvelles fréquences.
Je l'espère. J'espère. Je crois d'ailleurs que c'est une raison, c'est une explication qui me paraît assez évidente. à l'espèce de campagne qui est en train de se développer contre nous pour expliquer que nous sommes d'abominables crapules d'extrême droite. Alors, il y a quelque chose qui est très très drôle dans ce texte qui nous est... Si, vous allez voir, je sais bien que vous ne voulez pas qu'on lui fasse de la pub, mais il y a quand même quelque chose qui est très amusant. Je vais vous le lire parce que on sent là quand même qu'il y a un problème. C'est un problème clé. Je cherche cette phrase. Attendez, où est-ce que je peux trouver ça? Ah, c'est dommage. Je pense que je vais pas arriver à le trouver avant la fin de la demi-heure. Mais en gros, ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas déraper. Et ça, je trouve ça formidable, parce que on nous dit la plupart du temps Serge de Bekech, comme tous les intervenants de Radio Courtoisie, évite pourtant tout dérapage.
C'est pour ça qu'ils utilisent un glossaire.
Alors, comme on évite tout dérapage, ils sont bien obligés d'inventer des explications complètement abracadabrantes à tout ce qu'on dit et à traduire des choses aussi évidentes que décadence par la société légale est en décadence, Courtoisie y oppose l'idée d'une France ancrée dans son identité, conservant farouchement les valeurs bafouées partout ailleurs. Et ben c'est la vérité, et si ça vous embête, je dirais que ça nous fait doublement plaisir.
À force de décoder, ils en arrivent à déconner.
Voici un message de Didier Roy, cofondateur de Radio Courtoisie.
1989, Radio Courtoisie a 2 ans. La triste fête du bicentenaire de la Révolution bat son plein. Au milieu de ce désordre, Jean Ferré lance une pétition intitulée « Déclaration courtoise des droits de l'auditeur ». Avec, pour article unique, « Tout Français a le droit d'écouter Radio Courtoisie ». Seulement, hors la région parisienne et quelques villes de Normandie, et en dépit de la devise du CSA, pluralisme et liberté d'expression, toutes les demandes d'autorisation sont systématiquement refusées, partout. Malgré d'énormes difficultés, Radio Courtoisie tient le coup. Avec les années, de grands noms disparaissent. D'autres viennent enrichir l'Académie courtoise des patrons d'émission. Des auditeurs aussi sont partis, mais d'autres ont rejoint la ferveur d'écoute. Ainsi, l'auditoire est nombreux, mais seulement 2% des auditeurs cotisent. 2%, c'est très peu. Si un seul petit pourcent supplémentaire franchissait le pas de la cotisation, une voie royale s'ouvrirait pour Radio Courtoisie, outil essentiel de la résurrection française. 1% des auditeurs. Est-ce trop demandé à cette élite pour que le miracle français s'accomplisse?
C'était un message de Didier Roy, cofondateur de Radio Courtoisie. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur les bouquets satellites CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, datant du 3 septembre 1997. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, les 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, daté du 3 septembre 1997, rediffusé ce dimanche 20 novembre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Attention, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Bien, Il y a un problème de message, je ne comprends pas tout, là, mais... C'est le duc de la Rochelière qui n'est pas content.
Mais oui, il n'est pas content.
Qu'est-ce qu'on lui a fait au duc de la Rochelière?
Parce qu'il travaille dans la... Il travaille dans le... Comment dire? Dans la plaisanterie. Et puis alors, il nous raconte des choses, mais c'est un peu long, ces messages. Puis surtout, il ne les termine pas. Mes cotisations seront proportionnelles au nombre de messages passés.
Oh,
j'aime
oh,
beaucoup,
mais,
moi.
Mais comment donc?
Et là-dessus,
alors,
et là-dessus, après, il dit comment que vois-je un message donné à une téléphoniste à 18h15 traitant des Sables d'Olonne, de Rimini?
Oui.
De la manifestation contre l'église de Massy-le-Grand, non, Noisy-le-Grand, je ne peux pas lire, Massy-le-Grand, prévu le 11 novembre, n'a pas été lu. Pour une fois qu'on dit lire tous les messages, Serge de Becquetch n'est-il pas un journaliste menteur,
ah,
lui
mais,
aussi?
Non, non, mais alors là,
eh ben,
moi,
il n'est pas au courant, c'est moi toute seule, là.
Monseigneur, je vais vous donner une explication, c'est que moi, je ne lis pas les messages, c'est Victoria qui les lit. Et parce que moi, si j'avais lu le message, surtout avec cette fin... qui dit « mes cotisations seront proportionnelles
moi,
au nombre de messages
pas
passés », je l'aurais lu tout de suite, ben, bien sûr que si.
Ah bon, ah
bon,
bon
enfin, évidemment,
on n'a pas les mêmes
mais comment? Alors lisez donc ce message, vous allez
ben,
lire.
Ça y est, on vient de le lire, là,
ah mais non, répété, non, mais il faut le lire sérieusement. Il va...
Aphorisme modifié par le duc de la Rochelière. 4 viols à Rimini en 3 jours. L'immigration, une chance pour l'Italie. Un viol au Sable d'Olonne, commis par des jeunes, Donc une chance pour la Hollande, puisque c'était une Hollandaise. Le 11 novembre, initiative républicaine, Arangeol et compagnie, appellera à manifester contre l'inauguration de l'église Saint-Martin à Noisy-le-Grand. Post-scriptum, mes cotisations, etc., etc.
Bon, ben c'est bien.
On l'a lu en double.
À nous les cotisations maintenant.
Et maintenant, passez la boulette, passez la
À propos de Noisy-le-Grand, j'avais un texte à lire... Voilà, je vais le lire parce que... Voilà. Donc, enfin, un texte à lire. J'avais quelque chose à vous dire, c'est que... Bon, vous avez tous entendu parler, si vous écoutez cette émission, de l'association Ancre, association noisienne catholique pour la continuité du rite dans l'Église, qui a décidé de construire, de reconstruire à Noisy-le-Grand une église à partir d'une église qui a été démolie en province, qui a été ramenée pierre par pierre et remontée, etc. C'est un travail magnifique, il faut le voir. Et ça provoque naturellement l'ire de la racaille. C'est étonnant d'ailleurs, parce que si c'était une synagogue, il n'y en a pas un qui bougerait le petit doigt, hein, ça c'est bien clair. Personne n'oserait manifester contre la construction d'une mosquée ou d'une synagogue. Mais comme c'est une église catholique, alors on peut y aller. Là, ils sont tous prêts à... D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Alors on va pas se laisser faire naturellement. Donc je vous invite quand même à aller voir. Noisy-le-Grand, c'est tout près, hein, c'est en Seine-Saint-Denis. La station, c'est dans la ville nouvelle de la Marne-la-Vallée. C'est au 10 de la rue Jules Ferry. D'ailleurs, pour construire une église, on ne peut pas rêver mieux comme adresse. Tiens, peut-être que notre historien pourrait aussi se pencher sur cette question. C'est François qui a fait un livre sur Jules Ferry.
Ah oui?
Et commandant. Dans sa collection des cahiers.
Non, non, c'est pas dans les cahiers. Non, non, c'est un
livre. Ah non, c'est un livre. Donc, 10 rue Jules Ferry, station RER, Noisy-Champs. Vous allez voir, le chantier est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Vous pouvez visiter, vous pouvez vous présenter, vous dites « je viens de la part du Libre Journal du mercredi sur Radio Courtoisie » et vous serez très très bien accueillis. Et la consécration à l'église, de l'église qui s'appellera Saint-Martin aura lieu le Saint-Martin des Gaules, hein, bien entendu. Le mardi 11 novembre 1977 pour le 16e centenaire de la mort de Saint-Martin. On ne dit pas de la mort, d'ailleurs, on dit de la naissance au ciel. De Saint-Martin, évangélisateur de notre pays. Je vous rappelle l'adresse de l'Ancre. Tiens, si vous voulez les aider, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin d'aide, hein, parce que c'est un travail gigantesque qu'ils ont entrepris. Donc l'Ancre, ANCRE, Association Noisienne Catholique pour la Continuité du Rite dans l'Église, 10 avenue du Pavé 9, 93 160, Noisy-le-Grand. Voilà.
L'Ancre, c'est... Il y avait une autre... Bon, je
non, quoi, l'Ancre.
Comment ferez-vous avec les messages lorsque vous émettrez sur toute la France? Bon, on aura du mal, mais on fera ce qu'on pourra.
Je suppose que Jean Ferré a pensé à ça et qu'il a trouvé une solution, mais moi, je ne l'ai pas. Voilà.
On nous envoie le Parisien. Pas le Parisien, non, le Figaro, parce que M. Stasi a écrit.
Bien, alors maintenant, on va passer au dossier Évola. Alors, je dois dire que Je ne suis pas un évolien, c'est-à-dire que j'y connais absolument rien, mon cher Arnaud Guillot-Janin. Mais comme vous, vous connaissez très bien, vous allez certainement être en mesure de nous expliquer beaucoup de choses tout à fait intéressantes sur Julius Evola, et notamment sur son actualité, parce que je pense que si on fait un dossier, si on consacre un dossier à cet homme, c'est parce que il n'est pas simplement une espèce de figure historique, littéraire, philosophique, qui serait perdu dans les brumes du passé, et d'un passé d'ailleurs nauséabond, les heures les plus sombres et toutes ces sortes de choses, mais qu'il représente quelque chose aujourd'hui. Alors, la première chose, je vais supposer que beaucoup d'auditeurs sont dans mon cas et qu'ils ne connaissent pas Julius Evola. Et je vais vous demander, à vous qu'ils connaissent, puisque vous avez une émission sur Radio Courtoisie, et que vous êtes déjà venu d'ailleurs dans cette émission, dans mon émission, il y a quelques mois, pour présenter votre ouvrage sur la tradition, qui s'appelle, rappelez-le, parce que...
Enquête sur la tradition, Enquête aujourd'hui, sur la tradition. Paru chez Très Daniel.
Voilà. Donc vous étiez venu pour nous parler de ça, et depuis, parce que vous êtes un gros travailleur, vous faites partie de cette jeunesse scandaleuse qui ne va pas dans les boîtes de nuit, mais qui travaille. D'ailleurs, je pense que vous allez dans les boîtes de nuit, après tout.
Ça m'est arrivé.
Et ben voilà. Vous avez donc travaillé sur un dossier publié par L'Âge d'Homme. L'Âge d'Homme, c'est une maison d'édition remarquable, de courage et de qualité, qui a fait des choses splendides.
La première maison d'édition à avoir publié Solzhenitsyn, notamment en France.
Par exemple. Et là, ils ont créé, donc on l'a dit tout à l'heure, une espèce de revue, de très grosse revue, qui fait penser, par sa présentation, son contenu, sa direction éditoriale, au Cahier de Lerne, et qui donc consacre des dossiers à des personnalités qui ne sont pas des personnalités très rebattues.
Très conformistes, non.
Ni très conformistes. Alors, par exemple, il y a eu un dossier qui a été consacré à Dominique de Roux, d'ailleurs le fondateur des Cahiers de Lerne, et dont une des standardistes de Radio Courtoisie a été la collaboratrice pendant 10 ans. Véronique a travaillé pendant 10 ans avec Dominique de Roux, vous saviez ça?
Oui, j'ai lu son message tout à l'heure.
Voilà, ça c'est... Alors, Dominique de Roux, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, une espèce de personnage lumineux comme ça, et en même temps avec des zones d'ombre. Bon, et le dossier qui lui est consacré est passionnant, avec des signatures qui sont des signatures de très grande qualité. Il y a également un dossier, alors là, qui a tout à fait ma faveur parce qu'il est consacré à Alexandre Vialat, qui est une de mes idoles. Et on peut signaler, je crois d'ailleurs, qu'il va y avoir très prochainement aux éditions Perrin et Perrin un disque qui va paraître, qui va être diffusé.
Qui est paru, je crois.
Qui
même.
Est paru. Et un livre. Alors, le disque. Pardon. Le disque est un recueil d'entretien d'Alexandre Vialat. C'est d'ailleurs le fils de. Les éditions Perrin et Perrin sont. Conduite, dirigée, animée, gérée par Dominique Perrin et Rémi Perrin, le fils, la fille, ah pardon, la femme et le fils de Michel Perrin, qui était un grand journaliste, un grand écrivain, qui était un ami.
Grand spécialiste de jazz aussi.
Grand spécialiste de jazz, grand catholique de tradition.
Oui.
Et donc, c'est Perrin et Perrin diffusent un disque consacré à Alexandre Vialat, un ensemble d'entretiens accordé par Vialat à diverses personnes, et quelques textes de Vialat, lus par Vialat. Ça va être, je pense, quelque chose d'intéressant. On fera certainement un petit morceau d'émission sur ce disque, parce que je crois que c'est une chose passionnante. Et puis, toujours chez Perrin et Perrin, 46 rue Sainte-Anne.
Vous n'avez pas donné le prix.
Ah, du disque, je ne le connais pas.
Alors, à l'intérieur, Vialat lit Vialat, il y a le loup, le 1er mai, la chaisière, la lettre d'amour que j'aurais le mieux aimé écrire. Prix public 90 francs, franco de port, donc diffusion Perrin et Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e. Et dans la même collection, écrivain du siècle, est déjà paru en mars dernier, Louis-Ferdinand Céline parle.
Ah oui.
extrêmement intéressant.
Vialat est cet homme qui a dit cette phrase définitive qui me paraît mériter d'être gravée dans le marbre le plus fin. L'éléphant est irréfutable. Voilà. Entre autres. Alors, Perrin et Perrin vont publier, viennent de publier un tout petit, joli bouquin, comme ils savent très bien les faire, parce que les éditions Perrin et Perrin, c'est vraiment toujours très soigné, très, très délicat, sur un joli papier, des jolis caractères. Et ça, c'est l'Europe ou le déclin de l'Occident, qui est en quelque sorte une réponse d'Evola à Spengler.
C'est ça, et à son livre Le déclin de l'Occident. C'est un livre qui est constitué en fait de trois textes, dont l'un qui est en fait, qui a été publié en 1957 en Italie par Evola, et qui est la préface au déclin de l'Occident de Oswald Spengler.
Voilà, alors donc, ça
trois
je
textes,
rappelle.
En fait d'Evola sur Spengler et sur l'Europe.
Ça vaut 45 francs et on peut se le procurer chez Perrin et Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e. Je signale d'ailleurs, puisqu'on en parle, on a une petite minute, vous permettez,
oui, bien sûr.
Arnaud, que Perrin et Perrin republie, réédite les œuvres complètes de Michel Perrin,
oui.
Qui a été, alors il faut en deux mots, on va parler de lui en deux minutes. Michel Perrin a été, on l'a dit, c'était d'ailleurs un nationaliste, c'était un catholique de tradition, c'était un amateur de jazz, il est un des fondateurs du Hot Club, et c'était un homme d'une culture et d'une finesse et d'une drôlerie et d'un humour irrésistible. Et il avait notamment inventé un jeu qui consistait à placer dans toutes les circonstances... Il était un des collaborateurs de Télé 7 jours à l'époque où c'était vraiment un magazine de télévision. Et il avait donc lancé un jeu parmi l'équipe de Télé 7 jours qui consistait à placer à tout prix le professeur Aigbure dans un article. Ils avaient donc créé un personnage mythique qui s'appelait le professeur Aigbure et qu'on voyait apparaître de temps en temps et dans des papiers. Alors, quand il s'agissait d'un papier sur l'égyptologie, on voyait, selon le fameux égyptologue allemand, le professeur Aigbure, et puis on lisait l'exposé d'une théorie plus ou moins fumeuse. Quelques pages plus loin, on apprenait que le célèbre cardiologue, le professeur Aigbure, avait découvert une technique tout à fait moderne de défibrillation. Puis, quelques pages plus loin, pour présenter une émission sur l'automobile, on apprenait que le professeur Aigbure, spécialiste des métaux ferreux, avait trouvé un moyen de résister à l'usure des moteurs, etc. Et on voyait apparaître le professeur Aigbure dans toutes les activités possibles et imaginables. Et c'était celui qui arrivait à placer le professeur Aigbure dans la situation la plus incongrue, qui avait gagné pour la semaine, et Michel Perrin a d'ailleurs publié un portrait du professeur Aigbure. Et ses ouvrages sont réédités par Perrin et Perrin, et je vous les recommande, c'est charmant et très drôle, et c'est une forme d'esprit français qui, hélas, me paraît aujourd'hui un petit peu évaporée. Alors, maintenant j'ai assez parlé, je vais vous laisser la parole à Arnaud Guillot-Jeannin, pour nous dire premièrement, c'est un peu la même question, j'allais dire premièrement et deuxièmement, mais au fond c'est la même question, qui est Julius Evola et en quoi Julius Evola a-t-il pu vous séduire au point que vous lui avez consacré plusieurs mois de votre existence?
Je vais vous répondre d'abord à la deuxième question que vous me posez. Étonnamment parce que Julius Evola est véritablement un prophète. Il est mort en 1974 et 23 ans après sa mort, on va fêter aussi à partir de 1998 le centenaire de sa naissance, on s'aperçoit que c'est un esprit extrêmement lucide, extrêmement rigoureux et qui a été très visionnaire. Et tous les livres qu'il a publiés depuis 1928 jusqu'à 1968, 1969, puis les articles qu'il a publiés dans un certain nombre de journaux ou de magazines en Italie, eh bien on s'aperçoit que tous les textes qu'il a publiés, tous les livres qu'il a écrits sont étonnamment présents, sont étonnamment actuels et ne résistent pas à la mode. Voilà. Donc il y a véritablement chez Evola une actualité récurrente. C'est un penseur qui se réclame de la tradition dans ce qu'elle a de plus éternel, de plus immuable, de plus intangible. Et par conséquent, tous ses livres sont éternels, intemporels. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à Julius Evola.
Alors qui est cet homme Julius, d'abord il s'appelle pas Julius.
Il a adopté le prénom de Julius par admiration pour l'Antiquité romaine. Il s'appelle en fait Giulio Cesare Andrea Evola. Et il est né à Rome.
Enfin, le fait qu'il s'appelle Giulio Cesare laisse penser que ses parents n'étaient peut-être pas totalement étrangers.
Il est né dans la petite noblesse sicilienne, le 19 mai 1898. Et très tôt, il va se consacrer aux arts, à l'étude des grandes doctrines philosophiques. Il est aussi élève ingénieur. Et puis, il y a un grand bouleversement existentiel qui va venir dans son existence. Il part à l'âge de 16 ans sur le front pour occuper les fonctions d'officier d'artillerie. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'il lit un certain nombre d'auteurs allemands comme Nietzsche, Otto Weininger, Carlo Michael Statter, mais aussi des philosophes français, Blondel, Lagnot, Lachelier, etc. Et puis, la guerre terminée, eh bien, il partira, il reviendra dans sa ville et dans son pays pour véritablement explorer les différents mouvements culturels italiens de l'époque, les mouvements dadaïstes, futuristes, etc.
Est-ce qu'on connaît ses origines lointaines? Parce que,
ses origines très lointaines.
C'est un romain de Rome
C'est un petit peu complexe, parce que Evola a eu toujours pour souci de ne pas dire grand-chose de sa vie, même dans ses mémoires autobibliographiques plus qu'autobiographiques, qui concernent plus son œuvre que sa propre personne. Il a toujours eu ce qu'il appelait pour lui l'impersonnalité active, c'est-à-dire la volonté toujours que son œuvre passe avant sa personne, parce qu'il pensait que le moi hypertrophié, que la volonté de faire en sorte d'être toujours au devant de la scène, était un narcissisme et une égolatrie très moderne qu'il se refusait. Donc on connaît très peu d'éléments sur la vie de Julius Evola, quant à ses origines et quant à sa vie familiale, sexuelle, professionnelle. On ne connaît véritablement de lui que quelques amis qu'il a fréquentés, et puis essentiellement ses livres.
Pas marié, pas de descendance.
Pas de descendance non plus. Il faut dire que très vite, en 1945, il sera, handicapé, puisqu'il aura malheureusement un accident lors d'un bombardement à Vienne. Il échappera de peu à la mort, il sera paralysé des deux jambes. Il faut dire qu'à l'époque, il répétait cet axiome que je trouve absolument sublime. Il disait « ne pas esquiver le danger et même le rechercher ». Silencieusement ne pas rechercher le danger et le rechercher quasiment dans le sens d'une silencieuse interrogation du destin. Donc il avait véritablement pour souci d'incarner sur le plan terrestre des idées qui lui semblaient célestes. C'est un homme de haute condition spirituelle.
Mais bon, on y reviendra, mais c'est pas du tout un chrétien.
Il n'est pas chrétien, mais il a eu en revanche beaucoup de sympathie pour le catholicisme médiéval, où il voyait une conciliation du meilleur paganisme romain avec le christianisme, et cette foi chevaleresque, virile, solaire, héroïque. Il a eu un antichristianisme assez fort dans ses années de jeunesse, notamment en 1928 quand il a publié Impérialisme païen, et puis après il souhaitera que ce livre ne soit pas réédité du temps de son vivant parce qu'il le considérait beaucoup trop polémique, beaucoup trop outrancièrement antichrétien, mais il aura toujours, c'est vrai, un petit peu de méfiance vis-à-vis du christianisme, sa période préférée étant, je crois, dans l'histoire, la Rome antique et le monde médiéval. Le Saint-Empire romain germanique.
Est-ce qu'il y a en France des gens à qui on pourrait le comparer? Est-ce que par exemple on pourrait dire que c'est une espèce de mélange de Brasillac et d'Abellio ou...
Non, difficile. Je crois qu'il est vraiment incomparable. La personne qui serait susceptible en France d'être le plus rapproché de lui serait René Guénon, avec évidemment toutes les influences qu'Evola a pu recevoir de Guénon, mais il y a néanmoins entre les deux hommes un certain nombre de différences. On pourrait rentrer dans le détail. Pour faire court, Evola est plutôt un guerrier, ce qu'on appelle le kshatriya, un homme de la deuxième fonction à laquelle il confère une dimension spirituelle, alors que Guénon était plutôt un contemplatif, un méditatif, un homme de la première fonction, ce qu'on appelle un brahman. Voilà, en gros, ce qui peut distinguer, rapprocher Evola de Guénon. Serait probablement la personnalité en France qui aurait eu le plus d'impact sur Evola.
Alors, quelle est sa formation? Parce que vous avez survolé les choses. Il y a 16 ans, il part pour se battre. Mais 16 ans, c'est un enfant, même si c'est un enfant très, très
dur, extrêmement viril, extrêmement exigeant avec la vie et avec la mort, qui a véritablement une colonne vertébrale, spirituelle, métaphysique, extrêmement pointue. C'est un homme qui ne ressemble à aucun autre. Evola ne peut pas être considéré comme beaucoup de nos contemporains, beaucoup d'écrivains. C'est vraiment une personnalité à part. Il va commencer, en réalité, si on veut suivre un petit peu sa trame biographique, il va commencer par la période artistique entre 1915 et 1923. Justement en s'intéressant, comme je le disais tout à l'heure, à des mouvements culturels italiens où s'entremêlent des poètes, des peintres, dadaïstes, etc. Et puis fait suite à cette période artistique, la période philosophique. Et alors là, c'est véritablement très important, c'est la période qui va de 1923 à 1927. Il publie en 1925 son premier essai qui s'intitule « Essai sur l'idéalisme magique », puis « L'homme comme puissance » en 1926, qui sera rebaptisé en 1949 « Le yoga tantrique », dont Marguerite Yourcenar... française, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être certains Français qui pouvaient être comparés. Voilà, on ne pourra pas dire que Marguerite Yourcenar peut être comparée à lui, mais enfin, elle s'est en tout cas inspirée d'un certain nombre de livres d'Evola, dont ce livre-là, qui est encore disponible d'ailleurs aux éditions Fayard, je crois, Le Yoga Tantrique, où elle disait, à propos de ce livre, « J'acquilla un de ces ouvrages qui pendant des années vous alimente et jusqu'à un certain point vous transporte. Hein ». Donc c'est un livre qui l'a extrêmement marqué, et dans ce dossierage, on a reproduit le chapitre qu'elle consacre au yoga tantrique d'Evola dans un de ses livres, dans la partie document.
Alors ça, c'est un des livres qui brouille beaucoup la connaissance, l'approche d'Evola pour des gens comme moi, par exemple, pour les catholiques, qu'ils soient des catholiques de tradition ou pas, mais enfin, en tout cas certainement pour les catholiques de tradition, parce que ça fait apparaître Evola comme, on passera l'expression, un tripoteur de choses qu'il ne faut pas tripoter. Il y a une dimension dans cette expression.
Il est à la confluence d'un certain nietzschéisme et d'un certain occultisme à l'époque. Effectivement, il est essentiellement lié à une métaphysique extra-chrétienne, rejetant d'ailleurs en même temps le christianisme. Il saura par la suite s'en défaire et accéder à un ésotérisme beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux, et allant véritablement aux sources de la tradition et de la philosophie pérenniste, c'est-à-dire de la philosophie traditionnelle.
Si on voulait réduire, résumer à grands traits la pensée d'Evola, quelles sont les grandes directions de sa pensée?
Bah, il commence, comme je vous l'ai dit, par un certain nietzschéisme, une certaine volonté de puissance, un surhumanisme, la philosophie du « moi »,
mais en même temps
accéder à la philosophie du soi. Et là, je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'il commence avec l'idée selon laquelle l'homme est une personne avant tout, et qu'elle se réalise dans un cadre spirituel intemporel, mais sa personne à lui surplombant ce cadre spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de prométhéisme chez Evola au départ. Une volonté de se substituer d'une certaine façon aux forces divines.
Oui, alors que vous nous disiez tout à l'heure que quand il a assumé son infirmité avec l'attitude de quelqu'un qui se sent en quelque sorte grandi par l'acceptation de son destin.
Oui, mais c'est
paradoxal.
Il y a quelques textes, je crois qu'on peut lire dans un livre qui a été publié à la fin des années 70, qui s'intitule « Le visionnaire foudroyé », il y a un certain nombre de textes qui prouvent précisément la force de l'idéal, du caractère d'Evola.
Il y a un texte en tout cas sur l'éveil.
Oui, qui est assez extraordinaire, qui peut-être pourra éclairer un certain nombre d'auditeurs sur cette dimension.
Sur l'éveil, oui.
C'est celui-là, ma bonne amie, qui est à la page 32.
Non, il est page 44. Pour s'éveiller. Il est nécessaire de s'éveiller, voilà.
C'est celui-là.
Il est nécessaire de s'éveiller, il est nécessaire de savoir saisir, selon une lucidité supérieure, et non selon un lyrisme vide, de grands symboles dans les trames du rythme des temps, tendre l'oreille au message caché de la grande voix des choses, savoir vivre, si l'on peut dire, rituellement, c'est-à-dire en accordant la réalité intérieure avec la réalité extérieure, ce qui est humain avec ce qui est plus qu'humain, tous ces phénomènes qu'un savoir mort réduit aujourd'hui à des nombres morts, à de grises formules sans vie, en un nivellement général dans le temps et dans l'espace, près duquel ne subsistent que des signes et des symboles de traditions oubliées, des fragments d'une grandeur perdue à reconquérir.
Moi, je trouve que c'est très chrétien, ça.
Oui, mais Evola, selon moi qui suis catholique, quand on lit Evola, véritablement, son souci à la fin pour un certain catholicisme médiéval, toutes les expressions hautement spirituelles qu'il emploie, toute sa façon de décrypter, de décoder le monde moderne à l'aune des principes traditionnels, en fait un chrétien, je pense, traditionnaliste. Le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de néo-païens s'en sont réclamés et qu'il y a eu différentes tendances, différents courants qui se réclament de l'évolianisme en général en Italie et en France en particulier. Mais il y a effectivement une dimension, à mon avis, chrétienne ou post-chrétienne chez Evola, sans nul doute.
L'impression que donne ce texte, c'est l'impression d'une hésitation en face de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est prêt pour qu'ils disent, comme disait Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Et puis qu'au dernier moment, il y a une espèce de retenue, un peu comme la retenue d'un morasse, disant non, ça serait presque trop facile que de dire maintenant.
Je pense que Evola avait un souci métaphysique plus fort que Charles Maurras. Maurras était essentiellement lié aux politiques d'abord, et voilà, plus au spirituel d'abord. Il y avait, je crois...
Ça, il faudrait que Hilaire de Crémier vienne parler avec vous de ça.
Non, mais non pas du pas tout. Non pas du tout que Charles Maurras ne se soucie absolument pas des abstractions de la dimension spirituelle de la vie en général. Mais enfin, il y a l'axiome de base maurassien qui est le politique d'abord, qui existe à un état relativement résiduel chez Evola, qui fait surplomber la dimension métaphysique et religieuse.
Alors justement, bon, on a vu l'aspect... On l'a vu, on a entrevu un des aspects spirituels de la pensée d'Evola, la pensée politique. Parce que le résumé, pour les ignares, les incultes comme moi, c'est Evola était fasciste, point à la ligne.
Oui, alors c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'aujourd'hui on vit dans le réductio ad Hitlerum, comme disait le philosophe Léo Strauss, c'est-à-dire qu'on réduit toute pensée anticonformiste, toute pensée non conforme à l'idéologie dominante et à la pensée unique, à l'aune du nazisme. Précisément, Evola est anticonformiste, il est antidémocrate, c'est un contempteur de toutes les formes de modernité, soit sous son versant capitalistique, bourgeois, libéral et mercantiliste, soit sous son versant communiste, marxiste, collectiviste, etc. Et donc, il n'est pas non plus un partisan du totalitarisme nazi ou du totalitarisme fasciste. Il ne vise ni à discréditer systématiquement le fascisme, ni à en faire l'apologie impudiquement. Il essaye, dans un premier temps, au sein du régime fasciste et au sein du régime de Mussolini, de critiquer positivement, à la lumière d'un certain nombre de principes de la contre-révolution, le fascisme. Le fascisme, pour lui, lui paraît trop encombré d'éléments bourgeois, populistes, centralisateurs, modernes, pas assez contre-révolutionnaires. Lui a envie de dégager le fascisme de toutes les idéologies un peu modernistes, un peu progressistes, un peu socialisantes qui peuvent exister dans le fascisme mussolinien.
Pardon pour le côté, comment dirais-je, médiocre de cette question, mais c'est ce que vous venez de dire qui m'y fait penser. De quoi vivait-il ?
Là aussi, question un peu délicate, car il n'a jamais parlé de son existence proprement pécuniaire. Donc, comment savoir comment il vivait ? Je pense qu'il vivait essentiellement de sa plume, ce qui était à l'heure actuelle impossible, ce qui était à l'époque encore possible, sous le régime de Mussolini, puis après 45 encore, en publiant quand même beaucoup d'articles dans la presse de la droite radicale italienne et en publiant un certain nombre de livres dans des maisons d'édition connues ou moins connues mais qui avaient quand même une certaine notoriété en Italie.
Oui, parce qu'on a l'impression, à travers ce que vous dites, notamment de cette espèce de rejet du populisme, que bon, c'est un aristocrate, en tout cas lui il a un sentiment d'appartenance aristocratique. Et d'ailleurs il en parle, ne serait-ce que sur le plan spirituel.
Oui, c'est pour lui... En gros, ce qu'il appelle l'aristocratisme de l'esprit par opposition à l'esprit bourgeois, à l'esprit conservateur, petit, étriqué, mesquin.
Mais ça fait penser, pardon, oui, de vous le dire de façon aussi brutale, mais oui, ça fait exactement penser aux idées de quelqu'un qui ne s'est jamais frotté à la réalité, qui n'a jamais été obligé de travailler, d'aller bouffer dans des cantines sordides à midi, de laver sa chemise le soir.
Quand il a quand même participé, il vient d'une petite famille de la noblesse sicilienne, mais c'était pas une famille de conditions extrêmement aisées. Et quand il est parti à l'âge de 16 ans pendant la Première Guerre mondiale comme officier d'artillerie, il n'était pas véritablement ce qu'on peut appeler un bourgeois ou un embourgeoisé. Il vivait quand même assez chichement. Il n'avait pas du tout, comme on peut le penser, de belles chaussures, de jolis gilets, de jolis costumes, comme on a pu le voir ensuite avec son joli monocle et ses ongles peints en vert pour quelquefois un peu éveiller ou surprendre ou provoquer ce qu'il appelait les bourgeois.
Et on va demander à Victoria de nous lire ce qu'il disait de l'aristocratisme spirituel.
Le véritable esprit aristocratique ne peut avoir de traits communs avec les formes d'une domination à base ou machiavélique ou démagogique, comme il est arrivé dans les antiques tyrannies populaires ou le tribunal de la plèbe. Il ne peut pas même avoir pour base une théorie du surhomme, si l'on devait ne penser à cet égard qu'à un pouvoir basé sur des qualités purement individuelles et naturalistes, de figure violente et redoutable. En son principe le plus intime, la substance de l'esprit aristocratique est au contraire olympienne, qui s'extrait d'un ordre déjà métaphysique. La base du type aristocratique est avant tout spirituelle. La signification de la spiritualité, ici, a peu à voir, toutefois, avec la notion moderne de cette dernière. Elle se relie à un sens inné de souveraineté, à un mépris pour les choses profanes, communes, d'acquisition, nées de l'habileté, de l'ingéniosité, de l'érudition et même du génie. Mépris qui s'avoisine fort à celui que professe l'ascète, mais toutefois en s'en différenciant par une absence complète de pathos et de sentiments. On pourrait enfermer l'essence de la vraie nature noble en cette formule, une supériorité de race vis-à-vis de la vie devenue nature.
Vous allez dire que je suis une fixation, mais moi je trouve
que c'est... Vous allez dire que c'est encore chrétien.
Ah, tout à fait.
Ah oui, non, mais c'est évident.
Mais c'est... Premièrement, c'est chrétien. Deuxièmement, ça fait penser à deux personnages, enfin à deux écrivains français. C'est Chateaubriand, enfin Alphonse de Chateaubriand. La réponse du Seigneur, c'est une broderie autour de ce thème-là. Et ça fait penser à Alexis Carrel.
Oui.
Cette espèce de certitude d'appartenir à une catégorie d'individus qui est exonérée des obligations basses et médiocres du quotidien.
Alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce que justement, il parle du surhomme, non pas en l'exaltant, mais précisément en la volonté de le dépasser.
Alors, noblesse oblige.
Voilà, alors il disait... Et c'est ce que on pouvait dire tout à l'heure à travers les ouvrages qu'il a publiés au début de sa vie, ceux que j'ai cités, mais aussi Théorie de l'individu absolu, Phénoménologie de l'individu absolu, Impérialisme païen, qu'il prenait le surhumanisme nietzschéen et qu'il vient finalement sur des positions anti-humanistes. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que à la philosophie du moi répond la philosophie du soi. Il faut, pour Evola, pour reprendre un petit peu... l'axiome de l'ésotérisme musulman, mener la grande guerre sainte, c'est-à-dire la grande guerre sainte contre soi, se faire mourir de l'extérieur pour essayer de mieux se réintroduire cosmiquement de l'intérieur. Il y a une volonté chez Evola, non pas de se dépasser...
Saint Paul disait, il faut dépouiller le vieil homme.
Voilà.
Ce qui est exactement la même chose.
Non pas simplement la volonté de se dépasser en tant qu'homme, mais la volonté, au contraire, de faire en sorte de canaliser toute son vitalisme, toute sa vitalité au profit d'une contraction intérieure qui permettra précisément après de se dilater pour pouvoir accéder à des cimes et pour pouvoir accéder à la hauteur et à la condition spirituelle la plus haute et la plus aristocratique.
Alors
sur le fascisme, je crois qu'il est quand même bon d'insister parce que on a beaucoup glosé sur Evola fasciste, Evola adorateur de Mussolini. Evola a rencontré deux ou trois fois Mussolini dans sa vie. Il a eu une correspondance avec lui. Ils se sont répondus de façon épisodique, épistolaire. Mussolini a quand même lu un certain nombre de livres d'Evola auxquels il adhérait, mais Evola a eu de très gros ennuis pendant la période fasciste avec les squadéristes ou avec quelques éléments du fascisme. Il s'est même fait casser la figure un soir alors qu'il publiait la revue La Torée, qui était une revue qui a publié 10 numéros, et il s'est fait aligner, si j'ose dire, par un certain nombre de fascistes institutionnellement militants parce qu'il ne correspondait pas à la ligne orthodoxe du fascisme historique de l'époque.
Mais je crois que ça fait c'est tout simplement parce qu'un homme comme ça fait partie de ce qu'on appelle les aventuriers de l'esprit. C'est-à-dire que les aventuriers de l'esprit, évidemment, les forces brutes du totalitarisme, que ce soit fasciste, hitlérien, socialiste, communiste, ne peuvent pas les supporter. Il n'y a que le communiste qui est arrivé à, que le communisme qui est arrivé à prostituer, à subvertir et à prostituer à ce point-là les intellectuels qu'ils n'avaient même plus besoin de leur faire du mal. Et je pense, je regardais hier cette émission sur Aragon, sur Arte, une émission consacrée à Aragon. C'est inimaginable de penser à quel niveau, à quel degré d'abjection totale, de prostitution ignoble, un homme de cette qualité intellectuelle est descendu sous le régime socialiste. Et ça, il n'y a pas, dans les régimes fascistes, il n'y a pas un écrivain, les régimes fascistes ou le national-socialisme, il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un penseur, il n'y a pas un intellectuel qui a accepté de se prostituer d'une façon aussi ignoble.
Ah non, mais c'est très clair chez Evola. Il faut dire aussi que Evola était, ce qui peut paraître d'ailleurs un petit peu amusant, mais qui en fait ne l'est pas tellement, il était un alpiniste de très haut niveau. Il a publié un ouvrage qui s'intitule « Méditation du haut des cimes ». Et c'était quelqu'un qui vivait vraiment de l'intérieur ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. C'était pas du tout un esprit désincarné, c'était pas du tout un intellectuel. Il disait même de façon un peu amusante, je divise l'humanité en deux catégories, la noblesse et ceux qui ont un diplôme. Il y avait toujours pour lui cette volonté d'enraciner son discours dans une réalité et non pas simplement d'avoir un accès à un discours d'ordre intellectuel qui ne serait pas légitimé par sa propre existence et par sa propre crédibilité, sa propre cohérence en matière intérieure. Toujours cette volonté de faire en sorte d'incarner de façon terrestre ses idées célestes. Je crois que c'est très important de le dire.
Toujours, pour ne pas quitter le terrain politique, quelle était l'attitude d'Evola? Je vois que Luc Saint-Étienne consacre un article à ça dans le dossier H, l'attitude vis-à-vis de la révolution, ou plutôt vis-à-vis de la contre-révolution.
D'une hostilité viscérale, violente, radicale vis-à-vis de la révolution française, et même de ce qui l'a précédé, mais cela nous emmènerait bien loin, puisque pour Evola, la Renaissance, d'une certaine façon, a préparé la révolution française à travers son centralisme et à travers un certain nombre d'idées, de valeurs ou de principes qui ont généré cette révolution française. Evola est un contre-révolutionnaire intégral. Il se réclame de Joseph de Maistre, de Léon de Poncin. Il a la volonté d'orienter la droite avec un grand D. Il a volonté d'orienter cette droite vers la contre-révolution, c'est-à-dire vers des principes essentiellement anti-progressistes, anti-modernistes, aristocratiques et, on le disait tout à l'heure, très anti-plébéiens. Son livre politique majeur, Les hommes au milieu des ruines, qu'il a publié en 1954, montre bien que Evola, pour lui, la contre-révolution se base sur l'idée d'organicité, contrairement à l'idée de mécanicité. C'est-à-dire que le type mécanique, c'est ce qui va de soi, c'est ce qui obtempère, c'est le côté totalitaire un peu collectiviste, alors que le côté organique, c'est une société hiérarchisée, une société où il y a des fonctions pour les hommes, comme dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire la première fonction, la fonction spirituelle, la deuxième fonction, la fonction guerrière ou politique, et la troisième fonction, la fonction économique ou productive. Et en cela, Evola est aux antipodes de l'individualisme libéral occidental et du socialisme collectiviste soviétique. Il propose un État basé sur l'idée d'organicité, c'est-à-dire sur l'idée fondamentalement anti-égalitariste, anti-individualiste et profondément aristocratique et... Je crois que ça, c'est important de le dire.
Est-ce qu'il a été un inspirateur, d'une manière ou d'une autre, de l'État fasciste, ou est-ce qu'il a simplement traversé...
Non, il a beaucoup plus traversé le fascisme qu'en était son inspirateur. Le philosophe du régime était Giovanni Gentile, qui, lui, a été un historiciste, un hegélien, et qui a été un petit peu le philosophe du régime. Et voilà, s'en distinguait. Et d'ailleurs, au moment de la publication, en 1934, de Révolte contre le monde moderne, le livre politique, peut-être pas politique, mais disons le livre historique majeur d'Evola, Giovanni Gentile s'en était séparé en disant que c'était un livre qui lui semblait un peu trop pessimiste, un peu trop aristocratique, justement, un peu trop contemplatif, et que il fallait essayer de lutter contre contre la modernité avec les armes de la modernité. Alors que pour Evola, il ne s'agit pas du tout de lutter contre la modernité avec les armes de la modernité. Il s'agit de retourner la modernité contre elle-même à l'aune de principes normatif traditionnel.
Quand vous l'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit qu'il avait été qu'il s'était intéressé aux philosophes français, notamment à Blondel.
Oui.
Alors, quelle est la
dette?
La dette, oui, des vols à l'égard.
Une assez grande dette. Il en parle assez largement dans ses mémoires autobiographiques dont j'ai parlé tout à l'heure, le chemin du cinabre. C'est un philosophe qui l'intéresse, mais qui a eu surtout un grand impact sur lui pour sa formation intellectuelle de jeunesse. Il s'en dégagera petit à petit pour accéder à d'autres philosophes, à d'autres penseurs, à d'autres théoriciens qui lui sembleront plus féconds. Mais je crois qu'effectivement Blondel a beaucoup compté pour lui, pour sa jeunesse, ça c'est certain.
Est-ce qu'il a des échanges nombreux, épistolaires ou de rencontres avec d'autres philosophes de son époque, d'autres penseurs?
Oui, il y a par exemple Mircea Eliade, l'historien des religions. On a publié dans ce dossier H 4 lettres de Jules Evola à Mircea Eliade. Il y a effectivement eu un mode épistolaire entre eux, avec certains philosophes de la tradition qui peut-être ne diront pas grand-chose à nos auditeurs, comme Ananda Kumaraswamy, mais aussi, je l'ai dit, René Guénon. Il a aussi eu beaucoup de sympathie pour Corneliu Codreanu, le fondateur de la garde de fer, la légion de l'archange Michel, qu'il a rencontré, dont il a dit le plus grand bien, qui lui semblait le mouvement politique d'ailleurs du XXe siècle le plus contre-révolutionnaire et le plus traditionnaliste. Voilà, il a eu effectivement un certain nombre de correspondances, mais c'était un homme quand même très solitaire, qui ne se livrait pas facilement.
Alors, la question, puisqu'on est dans l'ordre politique, la question obligatoire et incontournable, étant donné ses relations avec Almirante, par exemple, qui était un des
principaux fondateurs du mouvement social italien.
C'est ça, et puis qui était un homme qui célébrait la race italienne. Dont toute la pensée tournait autour de la race italienne.
Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Evola connaît Almirante pendant le régime fasciste, à l'époque où Almirante dirige une revue qui s'appelle Difesa della Razza, Défense de la race. Et à l'époque, Almirante est aligné sur les positions racistes et biologiques du national-socialisme. Evola, au contraire, est hostile à cette vision-là. Pour lui, certes, la biologie compte, certes, l'hérédité compte, mais ce qui compte avant tout, ce n'est pas la race au sens biologique, c'est la race au sens spirituel, la noblesse. Un homme de haute race, ce n'est pas un homme qui a biologiquement une certaine pureté fondamentale. Un homme de haute race, c'est quelqu'un qui a une noblesse d'âme. Hein? Et alors, il est précisément hostile à Almirante à cette époque-là. Almirante continue à soutenir Mussolini comme Evola, mais dans des camps un petit peu différents. Pendant la République sociale italienne en 1944, toujours ils soutiennent Mussolini, mais après-guerre, ils auront un parcours diamétralement opposé.
Il y a une rupture.
Une rupture considérable. Oui. À savoir que, pour Evola, Giorgio Almirante, bien que se reconnaissant toujours du fascisme historique, s'est embourgeoisé et est devenu un conservateur, un peu notabiliste, un peu politicien, qui n'a pas véritablement poussé dans ses derniers retranchements le système politique italien que Evola, lui, remet en cause totalement.
Ça, c'est l'éternel problème incompatibilité entre le penseur et l'acteur politique, parce que Almirante, qui était que j'ai connu et pour qui j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration, a été évidemment un homme qui s'est frotté au combat politique matériellement, et il lui était impossible de... On voit bien dans la lettre de rupture que lui adresse Evola.
Oui, dans
ce
dossier, on a publié effectivement une lettre que Evola a adressée en tutoyant d'ailleurs Giorgio Almirante, et qui l'intitule « Suite à l'exhibition du député et messie à la télévision ».
C'est ça. Hein?
Et c'est une lettre qui est publiée, je crois, en 1967.
Oui, c'est une rupture. Enfin, c'est plus qu'une rupture. C'est une lettre qui est à la limite de l'injure.
Bah, en gros,
c'est la lettre de quelqu'un qui ne s'est pas frotté à la réalité politique
Et qui, je crois qu'il s'est quand même relativement frotté à la réalité politique, parce que quand il publie ses nombreux ouvrages, quand il publie un certain nombre de textes, il y a quand même beaucoup de militants du mouvement social italien, d'Ordine Nuovo, de tous les partis politiques d'extrême droite italien, qui viennent le voir, avec qui il parle, etc. Il a de longues conversations, aussi bien sur les idées que sur l'alchimie, que sur les élections, etc. Il reste quand même essentiellement lié, malgré tout, à l'actualité. Donc c'est pas quelqu'un totalement détaché de la vie active. Même si c'est effectivement plutôt quelqu'un qui recherche intérieurement des solutions à l'homme moderne.
Vous avez dit qu'il était en opposition totale avec les théoriciens de la race. Est-ce que ça veut dire qu'il était aussi en opposition avec les théoriciens du nationalisme ? Quelle était son attitude vis-à-vis du nationalisme ?
Bah, Evola, alors ça c'est la grande originalité d'Evola, de son œuvre, c'est que Evola est un critique du nationalisme, mais pas du tout au profit d'une vision cosmopolite ou mondialiste telle que les turiféraires du monde moderne peuvent en parler, mais c'est un critique du nationalisme en ce qu'il pense que le nationalisme, par ses effets centralisateurs, uniformisants, n'ont pas permis de faire en sorte d'agréger les hommes à une structure organisationnelle, ce qu'il appelle l'Empire, l'Empire étant la conciliation de l'un et du multiple. Pour Evola, l'un et le multiple, c'est l'unité spirituelle et politique par le haut, et la multiplicité culturelle et populaire par le bas. Et autant la nation ou le nationalisme sont unitaires, c'est-à-dire qu'ils fondent l'État dans la nation et les hommes se regroupent en une simple masse qui adhère à cette nation, autant l'Empire concilie l'unité et la diversité. Donc il y a une volonté de quadriller le nationalisme et de montrer en quoi il est hostile, notamment à sa forme jacobine, parce que c'est vrai que Evola est un anti-jacobin farouche. Il y a dans ce dossier H un article de Charles Champetier sur Evola, nation et nationalisme, où Champetier montre bien que Evola critique le nationalisme au profit de l'idée d'empire et au profit aussi d'une certaine idée qu'il se fait de la nationalité qu'il différencie du nationalisme. Evola dit par exemple qu'au Moyen-Âge, on a connu le monde des nationalités, on n'a pas connu le nationalisme.
Oui. Mais c'est aussi un Italien qui parle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'expérience du centralisme, ils n'ont pas Philippe le Bel, les Italiens.
Oui, mais c'est pour ça que Evola, justement, est un grand Européen, c'est parce que il essaye précisément de ne pas être précisément dans sa propre sphère, de rester isolé, marginal. Il essaye de voir l'horizon le plus vaste possible, le plus loin possible. Il essaye d'aller au-delà de sa petite nation et de ne pas rester dans le bunker.
Parce que c'est un Italien et que quand il parle en tant qu'Italien, il parle d'une petite nation, c'est-à-dire qu'il parle d'une ville ou d'une république ou d'une principauté ou d'un duché. Ou...
Oui, mais quand il critique le nationalisme, c'est de façon beaucoup plus universelle. C'est l'idée nationaliste et l'état-nation qu'il remet en cause. C'est pas simplement l'Italie en tant que telle.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on comprend parfaitement qu'un homme comme Evola, avec sa ses racines, soit un impérialiste au sens.
Alors attention, là c'est très important parce que l'impérialisme impose tandis que l'empire compose. Pour Evola, l'impérialisme américain, l'empire soviétique, l'empire français, les empires coloniaux, l'empire napoléonien, le Reich hitlérien, tout ça, ce sont des faux empires. Le vrai empire, c'est celui qui respecte et qui concilie la diversité et l'unité. Il est un partisan de l'empire.
Il y a un texte qui pourrait, européen, d'une certaine manière, illustrer ça. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais le rapport entre ce texte et ce qu'on dit. Mais c'est un texte qui montre bien que dans son esprit, il y a une immédiateté ou une coïncidence dans le temps.
Oui.
Entre le crépuscule de l'individu et le crépuscule de l'Occident, en l'occurrence, pris au sens de l'Empire occidental.
Oui, alors c'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à Spengler et que le petit livre qui vient d'être édité chez Perrin et Perrin est très utile, parce que Spengler a publié au début du siècle « Le déclin de l'Occident », Evola l'a préfacé en 1957 et il s'est toujours beaucoup intéressé à Spengler. Quelle est la théorie de Spengler? La théorie de Spengler, c'est de distinguer et même de radicaliser en les opposant la culture de la civilisation. La civilisation étant essentiellement liée au monde des masses, terrestre, faisant fi des enracinements, des communautés, alors que la culture, elle, plonge véritablement ses racines dans les traditions immémoriales des peuples. Et Evola a ce souci toujours de montrer en quoi il est partisan de la culture contre la civilisation. Pour lui, par exemple, il n'existe pas de culture américaine, il existe une civilisation américaine. Mmh. De ce point de vue-là, Evola critique certains aspects de l'œuvre de Spengler. On pourra se reporter à ce petit livre parce que ça nous emmènerait bien loin. Mais il critique un certain vitalisme spenglerien. Spengler est assez, par exemple, partisan de la technique. Il pense que les peuples de couleur vont s'approprier la technique et vont dominer le monde occidental, alors que, bon, finalement, aujourd'hui, à la lumière de l'actualité, les prophéties spenglériennes ne se sont pas totalement réalisées. Evola est beaucoup plus un ascète qu'un vitaliste. Il pense qu'on doit juger l'histoire de façon universelle et qu'on ne doit pas simplement avoir une vision un peu darwinienne de mutation-sélection à travers l'histoire et de dire, bon, bah, il y a un peuple d'un côté, un autre peuple de l'autre, bah, les deux peuples vont forcément s'opposer à un moment donné. Il y a une volonté toujours chez Evola d'harmoniser, de concilier, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une interdépendance universelle entre les peuples.
Victoria, vous nous lisez ce texte, s'il vous plaît?
Nous nous trouvons en face de la loi qui domine toute la culture et la société d'aujourd'hui. Au plan inférieur, l'organisme industriel, les moyens qui deviennent fins, la mécanisation, le système des déterminismes économiques et matérialistes, auxquels la science donne le rythme, connexe à l'arrivisme, à la course au succès d'hommes qui ne vivent pas, mais qui ont vécu, et à la limite, les tout nouveaux mythes du progrès indéfini, sur la base du service social et du travail devenu but en soi et devoir universel, sur le plan supérieur, l'ensemble des doctrines du devenir, faustienne, bergsonienne, point d'action, mais fièvre d'action. Il n'existe que la course vertigineuse de ceux qui ont été projetés hors de l'axe de la roue et dont la course est d'autant plus folle que plus grande est la distance qui les sépare du centre. Tant cette course que la dépendance de la loi sociale, dans le milieu économique, industriel, culturel et scientifique, sont inévitables, fatales en tout et pour tout, dans l'ordre entier de choses qu'elles ont créées, une fois que l'individu s'est rendu extérieur à lui-même, une fois qu'avec le sens de la centralité, de la stabilité et de la suffisance intérieure, il a perdu le sens de ce qui constitue vraiment la valeur de l'individualité. Le crépuscule de l'Occident procède irréfutablement du crépuscule de l'individu en tant que tel.
Je sais pas ce que vous en pensez, Arnaud, mais moi j'ai l'impression que s'il fallait garder un texte d'Evola, ça serait celui-là.
C'est un beau texte.
C'est magnifique, et puis c'est d'une...
Très préfigurateur, et puis qui apporte, je crois, de nombreux éléments, aussi bien intérieurement qu'extérieurement.
Alors il y a beaucoup d'appels, de faits de citation, de contestation, une émission plus passionnante, nous dit un auditeur, mais c'est amusant parce que... tous les appels vont à peu près dans la même direction, portent sur le même sujet, et je vais les en faire état maintenant, parce que c'est ce dont je voudrais parler maintenant. Alors, le premier, c'est un auditeur qui nous dit « À cause de sa dimension politique, on néglige certains aspects de l'œuvre d'Evola, notamment ses ouvrages « Le mystère du Graal » et « La tradition hermétique », qui permettent de comprendre la transmutation de l'homme à travers l'alchimie. » Alors, là-dessus, un auditeur nous dit, un auditeur nous dit, attention, la doctrine philosophique d'Evola n'aboutit qu'à un pur luciférianisme, conféré les articles de Sous la bannière, numéro 60 et 61. Un autre auditeur nous dit, pour un chrétien, s'intéresser à Guénon ou Evola, c'est nocif, ou dans le meilleur des cas, inutile. Studiositas non curiositas. Ça doit être l'abbé Cellier qui nous envoie ça. Un autre auditeur nous dit, je crains qu'Evola... Je crois qu'Evola peut éloigner de la religion catholique quelqu'un qui y est fidèlement attaché et peut rapprocher de la religion catholique quelqu'un qui s'en est beaucoup éloigné. Ce qui est intéressant. J'ai lu un petit peu Evola, mais je crois que c'était un peu inutile, nous dit un auditeur. qui ajoute « Le bien que Mussolini a fait à son peuple est sans commune mesure avec le bien ou l'influence bénéfique des écrits de Julius Evola ». Enfin, un auditeur nous dit « Ce n'est pas parce que Evola était anti-humaniste qu'il était chrétien, le diable a plusieurs fers au feu ». Ça, je suis bien d'accord. Donc, on peut essayer de résumer toutes ces questions. Un auditeur nous dit également « Quel est le dieu d'Evola ? Où est Dieu dans son système ? De quelle tradition parlez-vous » Alors, tout ça pourrait être résumé.
Ça renvoie à une question primordiale qui est de savoir à quoi renvoie individuellement, c'est-à-dire quelle est véritablement la vision du monde d'Evola par rapport à la spiritualité. Je crois qu'il est important d'abord de répondre à l'auditeur sur le luciféranisme d'Evola supposé, parce que si vraiment Evola n'est pas quelque chose, c'est bien luciférien ou sataniste. Il n'a eu de cesse durant toute sa vie de dénoncer le satanisme, l'ésotérisme de Foire, l'occultisme de Pacotille, le prométhéisme, en tout cas après les années 30, et il fait paraître en 1932 un ouvrage, à mon avis, qui est ultra visionnaire, vraiment très prophétique, il faut absolument en lire, parce qu'il est l'annonce de tout ce qui arrive aujourd'hui avec les sectes, le New Age et toutes les la théosophie, la psychanalyse, etc. Et puis en 1932, un ouvrage qui s'intitule Masque et visage du spiritualisme contemporain, qui dénonce, encore une fois, ce que Spengler appelle la seconde religiosité, ce que Guénon appelle la contre-initiation, et ce que Evola appelle la spiritualité à rebours.
Et je crois qu'il y a qui un est vraiment texte. Ce que dénoncent à peu près tous les penseurs traditionnalistes
du XXe siècle. Parce que justement, comme ils croient, et ils n'ont pas tout à fait tort, qu'on peut confondre ésotérisme et occultisme, occultisme et satanisme, ésotérisme et satanisme, ils prennent justement la mesure en disant que l'ésotérisme, au sens évidemment le plus sérieux, le plus rigoureux du terme, c'est-à-dire le décryptage initiatique, la méditation intérieure sur les textes sacrés, c'est justement l'antidote au satanisme, c'est l'antidote à l'occultisme, c'est l'antidote à tout ce que nous voyons actuellement. Et quand il dit, dans « Masque et visage du spiritualisme contemporain », lire des ouvrages spiritualistes, fréquenter les cénacles de théosophes, méditer sur l'hôte inconnu de Maeterlinck, faire bravement ces 20 minutes de méditation quotidienne remplies d'une foi touchante en la réincarnation qui permettra à chaque âme de poursuivre son évolution en une nouvelle existence où l'attendront les fruits du bon karma humanitaire, tout ceci est en vérité un régime de dépassement de soi assez commode. C'est vraiment
c'est ça d'une actualité qui lui déplaît, totale. C'est commode.
Et oui, c'est commode. Et puis c'est surtout la parodie, l'imitation et tout ce qu'il peut y avoir de pourri, d'intrinsèquement pourri, dans les spiritualités parallèles et dans tous les phénomènes d'ésotérisme de supermarché, finalement.
Dans Goncourt, il y a une très belle critique de la réincarnation. J'ai trouvé, c'est un argument super. Les gens qui croient à la réincarnation pensent sans doute que Dieu est comme un metteur en scène de théâtre qui n'a pas assez de figurants et qui doit leur faire changer de costume à chaque fois qu'ils passent dans la coulisse pour figurer des armées nombreuses.
Oui, c'est très très beau.
Voilà, c'est ça.
Et alors, notre auditeur parlait de la tradition hermétique et du mystère du Graal, qui sont deux ouvrages effectivement qui ont compté, puisqu'il a publié la tradition hermétique en 1931 et le mystère du Graal en 1937, qui sont liés l'un à l'alchimie et l'autre au fondement principiel historique de la tradition gibeline. Bon, il y aurait tout le conflit entre les guelfes et les gibelins au Moyen-Âge, ça nous emmènerait bien loin. Je pense qu'il est bien que l'auditeur puisse se reporter éventuellement à ces ouvrages ou alors à ce dossier qui en fait mention. En gros, dans la tradition hermétique, c'est une étude rigoureuse sur un courant initiatique, sur ce courant initiatique qui s'est perpétué durant le Moyen-Âge, derrière le paravent de la recherche alchimique. Et voilà, c'est beaucoup intéressé effectivement à l'alchimie, à tout ce qui peut avoir trait à cela. Voilà, donc là, si on essaye maintenant un petit peu de cerner le visage spirituel d'Evola, à quel dieu fait-il référence, qui est-il vraiment, est-il authentiquement catholique, peut-il être quelqu'un de dangereux pour un catholique, j'aurais tendance à répondre que Evola n'est vraiment pas dangereux pour un catholique. Si un catholique est ferme dans sa foi, s'il lit Evola, il aura, à mon avis, des pièces, des munitions et des armes qui lui permettront précisément peut-être de orienter son catholicisme vers quelque chose de plus authentiquement traditionnel que s'il ne le lisait pas.
Je crois de toute façon que, à l'heure actuelle, étant donné le monde qui nous environne, pas un seul penseur, pas un seul écrivain ne peut égaler en dangerosité, pas seulement pour un catholique, mais tout simplement pour un être humain, l'environnement visuel dans lequel on est. Une espèce de saleté permanente.
Et comme Evola a été le contempteur le plus vigoureux, le plus véhément, et le plus rigoureux de cette modernité affadie, délétère, mortifère dans laquelle on vit, on ne saurait faire l'économie de le lire.
Alors, je voudrais faire une petite plaisanterie, si j'ose dire, c'est pas tellement un gag, c'est pas très drôle, mais comme on a beaucoup parlé d'alchimie, là, je voudrais demander à Victoria de nous lire un texte où il est question d'or.
Oui.
L'infinité des hommes sur la terre privée de lumière, réduits à l'état de pure quantité, seulement de quantité, rendus égaux dans l'identité matérielle de partie dépendant d'un mécanisme abandonné à lui-même, lancé à vide, sans que personne n'y puisse plus rien, telle est la perspective qui se trouve au bout de la direction économico-industrielle où s'est engouffré tout l'Occident. Qui a le sentiment qu'il s'agit de la mort de la vie et de l'avènement de la loi brute de la matière, le triomphe d'un fatum épouvantable, a encore le sentiment qu'il ne peut exister qu'un remède, briser le joug de l'or, surmonter le fétichisme social et la loi de l'interdépendance, restaurer les valeurs aristocratiques, ces valeurs de qualité, de différence, d'héroïsme, ce sens de la réalité métaphysique à laquelle aujourd'hui tout s'oppose.
C'est un texte alchimique.
Oui. Car il y a une analogie entre l'or tel qu'il peut être vécu au sens alchimique, voilà, et l'or au sens du veau d'or.
Exactement.
Et c'est ça qui est très intéressant.
C'est pour ça que je dis que c'est un texte alchimique, parce que c'est un texte qui exprime ce que tous les alchimistes sérieux disent à longueur de temps quand on les laisse parler. L'alchimie n'est pas la recherche de l'or, l'alchimie c'est le chemin qui conduit au moment où, ayant trouvé la pierre philosophale, autrement dit la possibilité de fabriquer de l'or, on mesure l'absolue vanité de cette découverte, et par conséquent, on brise le joug de l'or. C'est pour ça que je voulais citer ce texte à ce propos, qui a d'autres résonances, bien entendu, qui est un texte qui me paraît magnifique encore. Enfin, je crois vraiment que il faut lire...
Il y a un bel axiome de base d'Evola qui, moi, me paraît, s'il est véritablement incarné, intérieurement vécu de façon très harmonieuse, et je crois que c'est véritablement un régime de soi qui n'est pas commode, mais auquel il faut, à mon avis, correspondre, c'est quand il dit « Fais sur ce quoi tu ne peux rien, qu'il ne puisse rien sur toi. Fais sur ce quoi tu ne peux rien, ne puisse rien sur toi. » Et voilà, est quelqu'un qui est totalement débarrassé, je crois, de tout ce qui peut l'environner, de tout ce qui peut l'entourer, même s'il s'y intéresse. Je crois que Evola est dans le monde sans être de ce monde.
C'est un héritier des stoïciens.
Oui. Il y a effectivement une dimension stoïcienne.
Et des vrais épicuriens, les vrais épicuriens n'étaient pas, contrairement à ce qu'on nous dit maintenant, des amateurs de tous les plaisirs. C'était au contraire des gens qui savaient réduire leurs appétits à la mesure de leurs possibilités.
Alors, il y a quelques ouvrages politiques ou métapolitiques dont on a parlé, Les hommes et des ruines, mais il faudrait parler de deux autres ouvrages, à mon avis, qui sont assez centraux dans l'œuvre évolienne, c'est Orientation et Le fascisme vu de droite, qui viennent compléter, d'une certaine façon, Les hommes et des ruines, qui sont des livres de doctrine, des livres de direction qui permettent d'y voir un peu plus clair dans le débat des idées contemporaines. Il publie en 1950 ce petit ouvrage, Orientation, qui est un tout petit ouvrage. Je crois que s'il fallait commencer par lire un livre d'Evola, il faudrait commencer par celui-ci, Orientation, qui a été publié par les éditions Pardès et qui s'adresse à la jeunesse européenne. C'est un ouvrage très euphorique, très enthousiasmant, très vif, où il condamne le primat de l'économie, le capitalisme marchand, le socialisme collectiviste, le matérialisme, le nationalisme jacobin au sens où on en a parlé tout à l'heure, au profit, au nom d'une vision traditionnaliste, élitiste, aristocratique, en rupture totale avec les idéaux de la modernité que nous connaissons. Et puis, il y a Le fascisme vu de droite, qui est publié au début des années 60, où là, il revient un petit peu sur ce qu'il a déjà écrit, c'est-à-dire expliquer en quoi, historiquement, on doit essayer de mesurer en quoi il y a eu des aspects positifs dans le fascisme et des aspects négatifs, et montrer en quoi le fascisme aurait pu peut-être être meilleur que ce qu'il n'a été. Un régime, évidemment, n'est jamais univoque, il y a toujours le meilleur et le pire, et Evola s'efforce de façon très doctrinale, de façon très théorique, avec une cohérence absolue, de montrer précisément les voies de passage entre les points positifs et les points négatifs.
Et puis alors, avant, je voudrais quand même, avant de passer à l'autre question, je voudrais que Victoria nous lise un texte qui me paraît n'est peut-être pas tout à fait bien placé, mais je suis pas certain qu'il vienne pas à sa place. Le regard que qu'Evola pose sur la démocratie.
Oui.
Et qui est un regard que je ferais volontiers mien, hein, je dois dire.
Bon. Et alors Evola, je m'empresse de le dire, critique la démocratie sous deux versants. D'abord parce que il est pour une légitimité d'ordre divin et qu'il pense que la démocratie c'est la masse, c'est ce qui peut être plébéien, et il critique aussi la démocratie en tant que règne de la quantité, comme loi du nombre, etc. Il y a donc une critique, si vous voulez, négative de la démocratie en ce que la démocratie incarne la loi du nombre, le règne de la quantité, et une critique positive en ce que pour lui la démocratie est un régime aux antipodes d'une monarchie de droit divin qu'il appelle de ses voeux.
On dit que la démocratie est le gouvernement du peuple par lui-même. La volonté souveraine est celle du plus grand nombre, lequel l'exprime librement à travers le vote, dans le symbole des représentants, qui sont tenus de se dévouer à l'intérêt général. Mais, pour autant que l'on insiste sur cet autogouvernement, apparaîtra toujours une distinction entre gouverné et gouvernant, vu qu'un ordonnancement de l'État ne se constitue point si la volonté du plus grand nombre ne se concrétise point en personne particulière auquel est confié le gouvernement. Il est évident que ces personnes ne seront point choisies au hasard. Elles seront celles en qui l'on croit reconnaître une capacité majeure, et donc, bon gré mal gré, une supériorité sur les autres, en sorte qu'elles ne seront pas considérées comme de simples porte-parole, mais qu'on leur supposera un principe d'autonomie, une initiative de législation. Voici donc apparaître, au sein du principe démocratique, un facteur antidémocratique qu'il cherche vainement à réprimer avec les idées d'élection et de sanctions populaires.
Alors ça, c'est tellement vrai que ce paradoxe est tellement vrai que la naissance de ce qu'il appelle, je reprends le texte là, c'est pas à cette page, non, vous avez, voilà, dit. Le facteur antidémocratique qui apparaît au sein du principe démocratique.
Oui. C'est parce que pour Evola, la démocratie est confisquée par les lobbies et par les oligarchies financières, mais a été générée par le fait même que la démocratie existait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire simplement qu'il y a une déviation de la démocratie. Le déviationnisme démocratique a été généré intrinsèquement par le fait même que la démocratie a existé.
C'est tout le problème. C'est ça qui dénonce la démocratie comme un système qui ne peut pas fonctionner, puisque les révolutionnaires eux-mêmes, quand ils ont fondé la démocratie parlementaire, la première décision qu'ils ont prise, c'était de supprimer le mandat impératif. Ce qui est exactement ce que dit Evola, c'est-à-dire qui consiste à attribuer à quelqu'un non plus le rôle de porte-parole, mais le rôle de législateur inspiré de ses propres sentiments, en quelque sorte, et de sa propre supériorité, qui n'est plus obligé d'obéir à ceux qui l'ont porté, à ceux qui l'ont fait député, quitte à fait député, on pourrait dire, mais qui devient une espèce d'être supérieur. C'est-à-dire que la démocratie, Evola le dit de façon géniale, et je crois que c'est la vérité évidente, la démocratie est un paradoxe imbécile, puisqu'elle, cette démocratie secrète en
ses
même
propres
temps
anticorps, ses propres et ses propres excès et ses propres déviations.
Voilà. Je crois que ce texte aussi méritait d'être lu.
Et c'est en cela aussi qu'Evola est un contre-révolutionnaire intégral, parce que toutes les critiques formulées à la fois par les penseurs comme Mestre, comme Bonald, comme Léon de Poncin, mais aussi plus tard par Maurras, sont assez ressemblantes à l'antidémocratisme évolien.
Pardon. Et puis, comme il est un peu tard, je crois qu'on peut parler de...
Je crois qu'il y a deux livres sur lesquels il faudrait peut-être s'attarder un tout petit peu. Métaphysique du sexe et Chevaucher le tigre.
Voilà.
En parlant peut-être deux minutes, parce que ce sont deux livres très importants. D'abord, Métaphysique du sexe a été publié en 1958, et Evola le considérait comme son ouvrage le plus fondamental après Révolte contre le monde moderne. La thèse centrale étant que l'homme traditionnel doit fuir le puritanisme bourgeois et le pansexualisme, l'hédonisme sexualiste, qui fait que l'homme n'est plus véritablement un homme et la femme n'est plus véritablement une femme. Pour Evola, l'homme doit être pleinement masculin, la femme doit être pleinement féminine, et l'homme et la femme doivent retrouver leur potentialité transcendante. Il préférera toujours plus une femme qui a toujours ses qualités de femme plutôt qu'une femme qui s'est masculinisée, et vice-versa, il préférera toujours plus un homme qui reste avec ses qualités de virilité, d'autorité, et qui reste lui-même, plutôt qu'un homme émasculé qui serait féminisé. Pardon. Je ne crois pas que, d'ailleurs, que Evola donne la supériorité de l'homme sur la femme. Il les considère tout simplement comme différents et il considère que chacun a des potentialités qu'il doit déployer, qu'il doit développer selon des modes d'expression traditionnels.
Est-ce qu'il ne s'agit pas au fond d'une apparence de débat? Est-ce qu'il n'a pas choisi ça comme... enfin, ce sujet, comme un moyen déguisé de parler d'autre chose?
Je crois que la préoccupation sexuelle a toujours beaucoup compté pour Evola, mais il l'a toujours liée à la métaphysique, puisque dès 1928-1929, il s'intéressait à une petite revue, la revue du groupe Dur, qui était une revue de magie opérative, mais il aura après un regard beaucoup plus détaché vis-à-vis de tout ça, et son livre Métaphysique du sexe est un livre, je crois, qu'on peut mettre entre toutes les mains, puisqu'il dénonce tous les phénomènes d'émancipation de la femme, de pseudo-libération sexuelle, tous les phénomènes qui 10 ans après, en mai 68, commenceront à éclore.
Quel est son rapport avec, si jamais il en a eu, avec Wilhelm Reich?
Oh ben, il est très hostile aux thèses de Wilhelm Reich. Il y a d'ailleurs un texte de Philippe Bayet dans ce dossier H, Jus et Vola ou la sexualité dans tous ses états, où, qui est une dérive spéculative autour de métaphysique du sexe, où Philippe Bayet montre bien en quoi Evola était véritablement d'une hostilité farouche à l'égard des thèses de Wilhelm Reich, où il voyait une sexualité déviée, cérébralisée, mal amenée, étant totalement aux antipodes d'une sexualité saine et proprement métaphysique et traditionnelle.
Quand il dit « chevaucher le tigre », quel est le sens de cette expression ?
Oui, alors il publie cet ouvrage en 1961. Pour faire court, c'est son ami Adriano Romualdi, qui était le frère de Pino Romualdi, député du MSN. Adriano Romualdi, qui a d'ailleurs consacré une biographie à Evola, Jus Evola, l'homme et l'œuvre, qui disait très bien « Chevaucher le tigre est un bréviaire de celui qui doit vivre dans un monde qui n'est pas le sien sans se faire emporter par lui, fort de son invulnérabilité ». En gros, Evola exprime l'idée selon laquelle il faut non seulement empêcher le tigre, donc les forces de la dissolution, de vous sauter à la gorge, mais en outre, étant à califourchon sur l'animal, avoir finalement raison de lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas donc pour l'homme différencié, l'homme traditionnel, l'homme qui veut être dans le monde sans être de ce monde, de fuir le danger, le tigre, mais de le braver, le chevaucher, pour l'annuler, c'est-à-dire le domestiquer. Et alors là, il y a un réquisitoire contre toutes les terres de la modernité, dans « Chevaucher le tigre », qui va aussi bien contre le marxisme que contre l'existentialisme, le rationalisme, le scientisme, le prométhéisme, le féminisme émancipatoire, le jazz et la pop musique, pardon Michel Perrin, et puis beaucoup d'autres idéologèmes, beaucoup d'autres facteurs qui lui semblent profondément liés à la modernité délétère.
Je crois que sa réponse à une question que pose un auditeur, il n'est pas le seul, il y a une espèce de, à moins que ce soit lui qui répète toujours la même question avec beaucoup d'insistance, il nous dit « la tradition dont vous parlez, pouvez-vous la définir ?» On est au cœur de la question de la tradition. Je pense que c'est pour ça que je posais la question de l'image, du sens de l'image de chevaucher le tigre, car en réalité, chevaucher le tigre, c'est faire très exactement ce que fait le toréador quand il danse, en quelque sorte, quand il maîtrise le taureau dans l'arène, c'est faire exactement ce que fait Saint Georges quand il terrasse le dragon, c'est faire ce que fait Saint Michel quand il terrasse le méchant, c'est faire ce que fait la Sainte Vierge quand elle pose le talon sur la tête du serpent, c'est-à-dire c'est permettre à l'être humain, créature divine, de jouer un rôle un rôle déterminant dans le combat éternel entre les forces du bien et les forces du mal, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, et donc de jouer le rôle en quelque sorte d'agent de la lumière. Et c'est ça la tradition. Toutes les traditions dans la totalité de l'univers connu rejoignent cette idée que le rôle de l'homme est de servir de co-rédempteur, mais de co-agent des forces de la lumière, des forces du bien, des forces de la beauté, dans la, non pas l'écrasement et la destruction, mais dans la maîtrise et le terrassement des...
La tradition avec un grand T, tel que peut en parler Guénon, Evola et d'autres, ne doit pas s'identifier au seul passé. La tradition, c'est comme le dit Paul Serrand, un ensemble de vérités permanentes.
La tradition est un progrès qui a éternel. Réussi.
Voilà, exactement.
Alors, bon, là je crois qu'on a répondu aux questions sur la tradition. Un auditeur insiste, malgré les éléments positifs à propos d'Evola, vous devriez lire les ouvrages de Vatier sur l'ésotérisme. C'est vrai qu'il faut lire tout ça.
C'est les ouvrages de Jean Vaquier.
Oui, parce qu'il
y a eu, je crois, une grande polémique au sein de Lecture et Tradition sur le mot tradition, sur le mot gnose, entre François Mestre, qui avait préfacé les essais sur la franc-maçonnerie de Julius Evola, qui était un ensemble de textes d'Evola sur la franc-maçonnerie, et les gens de Chéron Montreuil, Lecture et Tradition, qui eux ont une vision extrêmement anti-évolienne et qui croient voir en Evola ou en Guénon des possédés sataniques, ce qu'ils n'étaient de toute évidence pas. Je crois que la meilleure façon pour appréhender Evola et les théoriciens de la tradition, c'est tout simplement de les lire et après de se faire sa propre idée, sans a priori et sans préjugés.
Voilà, ben je crois qu'on a, on a fait le tour des questions qu'on avait décidé de, d'évoquer ce soir. On n'est pas...
Pourrait-on enseigner Evola à l'école ?
Ça serait pas mal, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois pas vraiment comment est-ce que dans les manuels scolaires, comment est-ce que les gens de la FEN ou les lycées publics ou dans les écoles privées, on pourrait étudier un philosophe ou un théoricien aussi anticonformiste et aussi antithétique de tout ce qui se passe actuellement.
D'abord, ça supposerait qu'on sache lire, ce qui n'est pas le cas. Excusez-moi, madame l'institutrice.
Je l'ai vu autrefois, plus maintenant.
Pour conclure, ou pour ne pas conclure, selon le mot immortel de notre ami, on va, si vous voulez bien, faire un clin d'œil, parce qu'on a parlé de chevaucher le tigre, et ça me fait penser à l'attitude de gens pour qui Evola avec beaucoup d'admiration, qui étaient ces gens qui osèrent garder le soleil en face. Et donc on va écouter l'hymne de ceux qui osent regarder le soleil en face.
Car à le sol.
En fait, Arnaud, pourquoi le carré sol ?
Parce que Evola avait beaucoup d'admiration pour le mouvement contre-révolutionnaire espagnol La Falange, dont le chef historique s'appelle José Antonio Primo de Rivera, et dans le fascisme vu de droite, il rend hommage à ce régime, pas à ce régime, à ce mouvement, qui précisément était un mouvement à la fois contre-révolutionnaire dans ses inspirations doctrinales et révolutionnaire parce qu'il avait une volonté de rompre avec un certain nombre d'idées progressistes et modernes. Et il leur rend hommage surtout à ce mouvement parce qu'il considère que José Antonio et La Falange ont su expliquer en quoi le corporatisme, les corporations, le principe corporatif était probablement une des solutions économiques et sociales qui se trouvait une alternative face au capitalisme libéral et au socialisme collectiviste.
Merci Arnaud. Alors, un mot encore, la définition de la tradition donnée par Annick de Souzenec. La tradition n'est le fruit ni d'un passé, ni d'un futur. Elle est ce temps prophétique qui plonge dans l'intemporel et s'incarne dans l'instant.
On pourrait dire que la tradition, c'est une statue qui marche.
Référence des livres cités.
Alors, Julius Evola, les dossiers, c'est paru à l'âge d'homme, dont l'animateur, le directeur, l'éditeur est... je vous laisse le dire, mon cher Arnaud.
Moi, j'ai présenté, annoté,
alors, oui, ça,
prologué, si j'ose ce néologisme, ce dossier H sur Julius Evola, qui vient donc de paraître à l'âge d'homme et qui fait plus de 250 pages avec une très riche bibliographie d'Alain Benoît qui fait plus de 35 pages, la plus grande bibliographie établie à ce monde sur Julius Evola. Voilà.
Voilà, et pour terminer un mot encore, pour dire que les petites annonces sur le 3615 Libre Journal, c'est possible. Alors vous faites 3615 Libre Journal, et gratuitement, enfin 2,23 francs la minute, mais gratuitement, pour tout le monde, adhérent, abonné ou pas, vous pouvez proposer vos petites annonces. Elles sont visées, naturellement, par nous, pour pas qu'il y ait n'importe quoi, et que ça reste correct. Et elles seront diffusées aussi longtemps que vous le voudrez, emploi immobilier, meubles, etc. Toutes les petites annonces que vous voulez sur 3615, Libre Journal. Merci Arnaud.
Merci Serge de Beketch.
À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 septembre.